Je souhaite la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour cet après-midi de débat qui a été organisé par le département d'éthique publique du Centre Sèvres et par le Centre d'études du Sauchoir, donc une collaboration précieuse entre jésuites et dominicains. Bernard Bourdin, qui est là, présidera aussi cet après-midi. Cet après-midi consacré à la fraternité, qui fait partie de la devise républicaine, on ne peut pas dire que c'est le concept qui a été le plus honoré dans notre tradition républicaine par rapport à celui de liberté et d'égalité, qui ont évidemment plus de saveur, et on peut même dire qu'il a été un peu oublié. Néanmoins, on s'aperçoit de nos jours, et peut-être de plus en plus, que ce concept est essentiel, peut-être surtout parce que nous avons affaire à une société un peu dévorée par l'individualisme, et qu'il ne serait pas mauvais de remettre un peu dans le logiciel de la République un peu plus de solidarité, et d'une certaine façon, la fraternité relève d'une forme de solidarité. Donc, du coup, aujourd'hui, la réflexion se reporte sur ce concept, concept lui-même délicat à manier, et c'est le sous-titre de notre après-midi. S'agit-il d'un concept strictement politique, qui relèverait par conséquent de la raison publique, de la raison politique, ou est-ce qu'il s'agit d'un concept théologique, et il faut bien dire surtout d'origine chrétienne, et à ce moment-là, ne s'agit-il pas d'une intrusion redoutable de la religion dans la sphère républicaine neutre et laïque? Donc c'est un peu ce sujet qui va nous occuper cet après-midi, la fraternité, mais est-ce que c'est un concept strictement politique ou strictement théologique, ou les deux à la fois, donnant des fruits politiques, bien qu'il ait des racines théologiques? Alors, notre après-midi va se répartir de la façon suivante. Nous avons malheureusement à déplorer l'absence de Lucien Jaume, qui est retenu pour des raisons de santé. Son apport aurait été d'autant plus intéressant qu'il devait nous parler de Lamennais en 1848. C'est en effet dans ce courant-là, semble-t-il, que le concept de république, de fraternité, a été réintroduit ou introduit dans la devise républicaine. Malheureusement, il ne sera pas parmi nous. Donc, je vais laisser la parole tout de suite d'abord à Étienne Grieux, qui est le président du Centre Sèvres, professeur de théologie, et qui va traiter un peu de la question est-ce que s'il s'agit d'un concept strictement théologique. Comme il doit s'absenter ensuite, nous aurons un petit temps de discussion avec lui après son exposé, après quoi nous aurons une seconde et dernière partie avec Madame Véronique Albanel, qui, elle, prendra le problème plutôt sous l'angle de l'analyse politique. Est-ce que ce concept ne serait pas un modèle politique, selon le titre qu'il a donné son intervention? Et puis Laurent Lemoine, dominicain, nous provoquera, je pense, avec cette idée, est-ce que croire à la fraternité ne serait pas quelque chose d'absurde, et nous terminerons par un moment de discussion sur l'absurdité possible ou évitable, espérons-le, de cette idée de fraternité. Voilà, je n'en dis pas plus, vous êtes les bienvenus, j'espère que vous retiendrez quelques questions pour qu'on ait tout de même un débat sur un sujet qui mérite la discussion, ne serait-ce que pour préciser les choses, voir la portée de ce concept, et donc nous alimenter mutuellement à partir de l'apport de nos trois orateurs, oratrices, comme on dit aujourd'hui. Voilà, je cède donc tout de suite la parole à Étienne, en le remerciant, malgré ses nombreuses activités et un programme chargé aujourd'hui, d'avoir accepté d'intervenir cet après-midi. Merci d'avance, Étienne.
Merci beaucoup, Paul, et merci beaucoup à vous, les organisateurs de ce colloque. Je suis vraiment désolé là de devoir partir après mon intervention. J'aime pas du tout faire ça, et j'aurais beaucoup aimé écouter les autres interventions. J'espère que vous m'enverrez par mail, parce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir débattre avec vous sur justement le rapport entre la dimension théologique et politique de cette notion de fraternité. Ouais. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a les forums du Centre Sèvres, qui est un peu le gros événement de la mi-année au Centre Sèvres, et bêtement, quand j'avais dit oui à Paul pour cette intervention-là, ben, je m'étais pas rendu compte que ça serait, enfin, que je devrais me libérer sans doute assez tôt dans l'après-midi. Voilà. En tout cas, donc, j'ai intitulé cette intervention La fraternité, une invention chrétienne, avec un point d'interrogation. Alors, j'avais photocopié un peu plus qu'une trentaine de plans. Peut-être que tout le monde n'en a pas. Dans ce cas-là, si vous pouvez suivre avec votre voisin, voilà. Donc, la proposition, c'est d'examiner un peu l'histoire du terme de fraternité et de s'interroger sur ce que la tradition chrétienne peut apporter pour penser et vivre cette réalité. Et pour ça, je m'appuierai beaucoup sur le travail de Michel Dujarrier, un théologien spécialiste de patristique, qui a écrit un ouvrage en plusieurs volumes qui s'appelle « Église fraternité » et qui s'est attaché aux différents emplois du mot « adelphotes », donc « fraternité », dans les textes des pères des 8 premiers siècles. Voilà. Dans un deuxième temps, j'apporterai un tout petit complément à la perspective de Michel Dujarrier, simplement pour signaler qu'aux oreilles des chrétiens des premiers siècles, adelphotes ne devait pas désigner que le versant lumineux des liens forts et du soutien mutuel que le terme de fraternité évoque, mais il résonnait certainement aussi de la manière de présenter la fraternité dans la Bible. Et la fraternité dans la Bible, eh bien, c'est quand même pas si simple que ça. Voilà. Voilà, ceci pour souligner que la fraternité dans le vocabulaire chrétien, ce n'est pas un lien idyllique, mais c'est le fruit d'une réconciliation, on peut dire de retrouvailles, après qu'on soit passé par la violence entre frères. À partir de là, on pourra essayer de voir vers quoi ce terme de fraternité, dans sa déclinaison chrétienne, peut avoir une pertinence dans le champ politique. Alors là, je m'aventurerai peut-être un peu, parce que ce n'est pas des questions qui me sont très très familières, mais j'essaierai d'apporter quelques éléments. Voilà. Alors on commence par la réflexion de Michel Dujarrier. Premier élément de la thèse de Michel Dujarrier, c'est tout simplement que dans les premiers siècles de l'Église, fraternité, adelphotes, est le nom propre de l'Église. C'est dire son importance tout simplement cruciale pour la tradition chrétienne. Alors je vous ai mis une citation de lui qui dit cela. Hein. Le mot fraternité, adelphotes, au sens de communauté de frères, est employé tout au long des trois premiers siècles pour désigner l'Église. Donc pour désigner l'Église. Il est même le nom propre de celle-ci, car il n'est utilisé par aucun autre groupe religieux, philosophique ou social, alors que Église, Ecclesia, était un nom commun, couramment employé par les assemblées civiles. Donc vous voyez la thèse. Le nom propre de l'Église, c'est pas Ecclesia, mais c'est Adelphotes. Ecclesia était un nom très courant qui pouvait s'appliquer à des tas d'autres réalités, alors que Adelphotes, c'est un néologisme biblique et très employé par, disons, par les communautés chrétiennes. Alors, quelle est l'originalité de ce terme Adelphotes, qu'on traduit fraternitas en latin, aussi bien pour le monde grec que par rapport aux auteurs juifs du premier siècle? Tout d'abord, par rapport au monde grec ou latin. On peut dire que venant du grec, on dispose de trois termes qui semblent proches de l'idée de fraternité. Il y a philia, qu'on peut traduire amitié, sungeneia, et là ça désigne les liens du sang, et fratria, qui désigne les membres d'un clan ou d'une association, et qui, au fur et à mesure, va évoluer vers un sens assez péjoratif pour désigner finalement une faction. Donc un groupe uni par des intérêts communs. Par rapport à ces termes, adelphotes a la particularité de désigner des liens concrets qui ont une consistance sociale, et ça, ça le distingue de philia. Philia qui est du côté de l'amitié, donc vous voyez, c'est pas forcément... Ça donne pas forcément lieu à des choses concrètes, ça peut rester au niveau des sentiments. Hein. Donc, adelphotes, c'est des liens concrets qui ont une consistance sociale, mais qui ne sont pas des liens de sang, et ça, ça distingue adelphotes de sungeneia, et qui enfin ne fonctionnent pas pour isoler un groupe par rapport au reste mais se présentent comme les prémices de ce qui est promis à tous. Et ça, ça distingue Adelphothèse de Phratria. Voilà. On a encore d'autres termes comme philanthropia, qui désigne la bonté, l'humanité, et philadelphia, l'amour fraternel. Mais vous voyez, ce sont des termes qui désignent des exigences de comportement, on pourrait presque dire des vertus. Alors que, encore une fois, Adelphothèse s'en distingue, comme il se distingue de philia, au sens où il s'agit de liens établis, concrets, qui permettent de repérer un groupe ou une communauté. Voilà. Ça, c'est un premier point pour souligner la spécificité du mot Adelphothès par rapport à d'autres qui seraient voisins. Hein. À cela, on peut ajouter que dans l'Antiquité, il y a beaucoup de groupes ou d'associations qui parfois développent une sociabilité forte, hein, autour des métiers, notamment autour de la religion. Voilà. Et pour les désigner, il y a tout un vocabulaire, par exemple collegium en latin, eranos, sodalitas, thiasos. Voilà, il y a tout un vocabulaire comme ça pour désigner ces groupes. Mais en général, leurs membres ne vont pas jusqu'à se désigner les uns les autres comme frères. Voilà. Donc une sociabilité forte, mais qui ne bascule jamais du côté de la métaphore des frères. Voilà. Ça, c'était pour montrer le spécifique de Adelphothès par rapport au monde grec ou latin. Hein. Maintenant, si on regarde par rapport à la tradition juive. Chez les auteurs juifs du 1er siècle, on peut relever trois thèmes qui se déploient autour de fraternité. Tout d'abord, et c'est l'endroit où le terme Adelphothès apparaît pour la première fois, donc la première apparition de ce mot, on le trouve dans le livre des Maccabées, premier livre des Maccabées, chapitre 12, versets 10 et 17. C'est, vous savez, la fameuse affaire d'une lettre qui est écrite aux Spartiates. Donc les Hébreux écrivent aux Spartiates et ils reconnaissent les Spartiates comme des frères. Voilà. Et on emploie du coup le terme de fraternité, mais là il s'agit de frères de sang, tout simplement parce qu'on pensait qu'il y avait des ancêtres communs entre les Juifs et les Spartiates. Voilà. Ça c'est un premier emploi, donc fraternité de sang. Deuxième harmonique autour de la fraternité, mais sans cette fois-ci qu'on ait recours au terme Adelphothès, c'est chez un auteur comme Philon d'Alexandrie. Il y a l'idée d'une fraternité universelle entre les hommes, du fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Voilà. Enfin, troisième harmonie qui se déploie autour de ce thème de la fraternité, il y a, parmi les Juifs, une fraternité forte entre co-religionnaires et entre compatriotes, avec la conscience d'obligation spéciale vis-à-vis de ses co-religionnaires ou ses compatriotes. Il y a aussi des groupes de piété qui se forment, dans lesquels il y a un très fort sentiment de fraternité. Par exemple, les Esséniens s'appellent frères, hein, entre eux. Voilà. Par rapport à l'Adelphothès des chrétiens, manque ici le fait que cette fraternité soit destinée à tous. Au contraire, elle désigne un groupe qui se contredistingue des autres. Et donc, voilà, il y a une sorte de fermeture, de clôture de ce groupe. Donc vous voyez, du côté du monde de juif, soit ça désignera un groupe limité et clos avec des liens très forts, soit une fraternité universelle, là on est chez Philon d'Alexandrie, mais qui ne se traduit pas par des liens concrets, une sorte de potentialité de liens. Et de plus, jamais, et ça c'est quand même un point très important, jamais le terme fraternité n'est employé pour désigner la relation à Dieu. Avec Dieu, on n'a pas des relations de fraternité. Voilà. Alors tout ça, c'était un peu des préambules pour maintenant essayer de désigner quelle serait la spécificité de ce terme d'Adelphothès chez les chrétiens. Alors, d'abord, ce terme, on le trouve dans les écrits du Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, où il y a deux occurrences, et on le trouve aussi dans une lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens, donc c'est un texte très qui vient très tôt dans la tradition chrétienne. Et après ça, il y a un emploi très abondant chez les pères de l'Église. Et c'est ce travail que fait Michel Dujarrier. Il a essayé de recenser énormément d'emplois de ce terme d'adelphothèse chez les pères de l'Église très différents du 1er au 8e siècle. Alors, je vous ai mis sur le plan les deux occurrences de adelphothèse dans la première lettre de Pierre. On trouve d'abord un premier emploi au chapitre 2, verset 17. « Tous les humains, honorez-les. La fraternité, donc là c'est adelphothèse, aimez-la. Dieu, craignez-le. Le roi, honorez-le. » Dans la Tobe, on a traduit adelphothèse par « vos frères ». « Vos frères, aimez-les. » De même que dans la Bible de Jérusalem. Et on n'a pas vu que le terme de adelphothèse, et là c'est la thèse de Michel Dujarrier, pour lui, ce terme d'adelphothèse désigne une sorte de personnalité collective. Et c'est pourquoi il faudrait traduire pour lui la fraternité avec un grand F pour désigner une sorte de personnalité collective. Voilà. Ça c'est l'Église. Comme il dit, c'est le nom propre de l'Église, la fraternité. Voilà. Vous avez un deuxième emploi dans la même lettre de adelphothèse, c'est chapitre 5, verset 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diviseur, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances atteignent votre fraternité dans le monde. Voilà. Dans la Tobe, on a traduit vos frères, avec une note disant que littéralement c'est votre fraternité. Et dans la BJ, on a traduit la communauté des frères. Voilà. Alors, vous voyez, tout ça, comme indication, ça nous dit que adelphothèse, en reprenant donc encore une fois la thèse de Michel Dujarrier, c'est un nom collectif. On pourrait traduire aussi communauté de frères, ou bien fraternité avec un grand F, comme il propose de le faire, là, pour désigner donc une personnalité collective. C'est plus qu'une vertu, parce qu'à ce moment-là, on aurait Philadelphia, qu'on trouve aussi, d'ailleurs, dans la lettre de Pierre, ni un lien de parenté, mais des liens concrets existants. Voilà. Et ça, c'est un premier aspect donc pour caractériser adelphothèse. Deuxième aspect, c'est que cette notion d'adelphothèse est une notion théologiquement élaborée. Voilà. Et pour cela, Michel Dujarrier s'appuie sur l'Épître aux Hébreux et sur Romains 8. Voilà, à partir aussi de ce que les pères de l'Église postérieurement ont élaboré autour de cette notion d'adelphothèse. Voilà. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, on trouve au chapitre 2, dans les versets 10 à 18, un développement très important sur le fait que le Christ s'est fait le frère de tout homme. Le Christ s'est fait le frère de tout homme. Le Fils de Dieu, donc, en s'incarnant, se fait le frère de tous. Il devient en tout semblable à nous. Et ça, ça permet une profonde et totale solidarité entre lui et les hommes. Donc ici, on trouve très clairement la dimension universelle de cette fraternité, par opposition à tous les emplois de fraternité qui sont restreints à un groupe clos, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, vous avez une fraternité, le Christ en venant rejoindre l'humanité et en se faisant frère de tout homme, ça permet une fraternité universelle. Voilà. Ça, c'est un premier point, à partir de l'Épître aux Hébreux. Deuxième point, deuxième trait, à partir cette fois-ci de l'Épître aux Romains. Donc, il s'appuie, Michel Dujarrier, sur Romains 8, avec ce passage dans lequel, je pense que vous connaissez, l'Esprit Saint atteste que les croyants sont frères et sœurs du Christ. Ils sont orientés, grâce à lui, vers le Père. Ceux qui accueillent son message deviennent frères et sœurs du Fils unique, qui est lui le premier-né. Et ils sont adoptés comme enfants du Père. Vous voyez, le dessein du Père, c'est que les croyants deviennent conformes à l'image de son Fils. Conformes à l'image de son Fils au sens d'une participation vivante à ce que le Fils est. Voilà. Et cette conformation du croyant au Christ donne à celui-ci le statut de fils adoptif, avec les termes de enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Ils sont invités à entrer dans la vie divine. Et le signe en est l'inhabitation de l'Esprit-Saint en eux. Vous avez là un petit peu, en résumé à très très gros traits, les principaux éléments de ce passage de Romains 8. Voilà. Alors Michel Dujarrier commente aussi en disant que dans le monde mésopotamien existait la possibilité, outre l'adoption filiale, existait la possibilité d'une adoption en fraternité. On pouvait adopter quelqu'un comme frère. Et ça conférait à l'adopté la possession des biens de l'adoptant, y compris l'héritage qu'il recevra de son père. Donc, en parlant de co-héritier du Christ, eh bien, ça serait là-dessus que se serait appuyé Paul pour parler de la relation nouvelle qui est instaurée entre le croyant et Dieu grâce au Christ, qui a fait d'eux des co-héritiers. Il les a adoptés. Donc on voit ici que la fraternité dont il est question, c'est ce qui nous introduit dans la vie divine. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement chargé théologiquement. Voilà. Alors je vous ai mis une citation de Michel Dujarrier qui ressaisit cela sur le plan. Bref, en logique théologique, ce n'est pas parce que nous sommes fils du Père que nous devenons frères du Christ, mais l'inverse. C'est parce que le Fils incarné nous a adoptés en sa fraternité, grâce à l'Esprit Saint reçu au baptême, que nous sommes les fils du Père. Voilà. Là, vous avez quelque chose de très important dans la thèse de Michel Dujarrier. Voilà. Je vous ai mis une autre citation de lui aussi, qui reprend un peu le centre de sa thèse. La fraternité chrétienne est proprement le lien vital qui unit tout homme au Fils de Dieu incarné, qui permet aux croyants de devenir réellement, dans l'esprit, les frères et sœurs du Christ ressuscité, en qui ils sont pleinement enfants du Père. Voilà. Et donc, à partir de cette conscience-là, d'avoir été adopté comme frère par le Christ, eh bien, il va y avoir des relations qui vont se déployer au sein de la communauté chrétienne, des relations fortes, des relations de soutien mutuel, de solidarité. Voilà. Et ça va donner lieu à cette communauté de frères désigné par le terme d'adelphotes. Voilà. Alors, à cette thèse de Michel Dujarrier, j'apporterai peut-être une toute petite nuance ou complément. C'est que vous voyez que Michel Dujarrier insiste beaucoup sur le fait que c'est à partir du Christ que les chrétiens se reconnaissent frères. C'est à partir du Christ qu'ils se reconnaissent frères. Mais il me semble qu'on devrait compléter ce point en signalant que on tient aussi, dans le Nouveau Testament, à une fraternité à partir d'Adam, à partir du fait que nous reconnaissons un ancêtre commun. Par exemple, dans la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, eh bien, on remonte jusqu'à Adam. C'est bien qu'il y a aussi cette dimension de la fraternité qui existe. Il y a une sorte de lien de sang qui réunit, qui est capable de réunir tous les membres de l'humanité qui font partie du coup d'une même famille. Voilà. Et c'est, on pourrait dire, à partir de ce substrat que la fraternité chrétienne va redécouvrir et permettre de vivre autrement cette fraternité avec des liens très forts et intenses à partir du Christ, qui redonne à cette fraternité, disons, potentielle et qu'on oublie souvent, qui lui redonne une force extrêmement grande. Puisque nous sommes adoptés par un frère. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de la thèse de Michel Dujarrier. Voilà. Mais il me semble qu'il ne faut pas oublier non plus la fraternité en Adam. Voilà. La fraternité ne vient pas uniquement de l'adoption par le Christ. Voilà. Ça c'était donc ma première partie, une présentation brève. J'espère pas trop caricatural de la thèse de Michel Dujarrier. Maintenant, à cela, il me semble que c'est important d'apporter un complément en entendant comment résonne le thème de la fraternité dans la Bible. Alors là, je propose trois temps. Un premier temps assez bref pour dire que, d'abord, la fraternité y est chantée comme quelque chose d'heureux. On peut penser au psaume 132-133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Voilà. Hein. Mais il faut reconnaître que ces passages dans lesquels la fraternité est chantée sont quand même pas si fréquents que ça dans la Bible, en tout cas beaucoup moins fréquents que les passages dans lesquels on nous présente toutes les difficultés de la fraternité. En effet, et c'est mon deuxième point, la Bible s'attache à montrer la possibilité de la violence qui peut naître au contact de la fraternité, ou dans les parages de la fraternité. Dans les récits des origines, jouxtant la relation fraternelle, on trouve tout de suite la rivalité et la violence, et c'est le récit du meurtre d'Abel par Caïn. Mais ça continue ensuite avec la rivalité entre Jacob et Ésaü, et Joseph et ses frères. Sans oublier, si on regarde du côté des sœurs, les relations compliquées entre Léa et Rachel, les épouses de Jacob. Et puis dans le livre des rois, on nous raconte aussi les violences qui eurent lieu entre demi-frères, Amon, Tamar et Absalom. Voilà, ça passe par le viol d'une demi-sœur qui sera vengée par un meurtre commis par le frère de la victime contre son demi-frère. Voilà. Et si on va jusqu'au Nouveau Testament, eh bien on a aussi par exemple la parabole du fils prodigue qui montre les relations difficiles entre les deux frères. C'est même ça, en fait, souvent ce que nous disent les exégètes, c'est ça le centre de la parabole, qu'on appelle à tort la parabole du fils prodigue, mais en fait la parabole des deux frères. Et puis on pourra ajouter encore d'autres choses, comme les relations tendues entre Marthe et Marie, par exemple, dans Luc 10. Bref, il semble que dans la Bible, on insiste beaucoup sur la difficulté des relations fraternelles, beaucoup plus que sur l'idéal qu'elles pourraient représenter. En même temps, le simple fait de raconter toutes ces histoires semble indiquer qu'autour de la fraternité, il y a comme un rendez-vous, il y a comme quelque chose à dénouer. On pourrait comprendre cela à partir notamment du récit du meurtre d'Abel, au sens où la difficulté constatée dans les relations entre frères est le signe du caractère potentiellement violent de toutes les relations entre les êtres humains. Et la difficulté qu'on repère dans la relation entre frères, du coup, serait un peu comme le symbole de la violence possible entre tous les êtres humains. Et donc là, ça indique comme un rendez-vous, quelque chose qui est là et qui est à dénouer. Donc, autour de la fraternité, on peut dire dans la tradition biblique, il y a à la fois le meilleur et le pire de ce dont l'humanité est capable. Sans doute, les relations entre frères, du fait aussi de cette grande proximité entre frères, font-elles un effet de loupe pour dire la réalité des relations entre tous les humains. En tout cas, d'emblée est indiqué qu'il s'agit d'un lieu difficile et qu'il y a quelque chose à guérir, en quelque sorte. Alors, c'est à partir de cette perspective que je vous propose une troisième étape, en se demandant comment le Christ se fait notre frère, finalement. Comment le Christ nous rend à la fraternité et, disons, ouvre un chemin pour dénouer ce qui, là, était perçu comme un nœud à dénouer. Voilà. À ce sujet, on peut remarquer que les seules fois où le Christ parle des disciples comme de ses frères, c'est après sa passion. C'est l'épisode avec Marie-Madeleine, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, et un épisode proche dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 10, où là, le ressuscité retrouve les femmes qui sont venues au tombeau. Comment comprendre cela? Peut-être on peut le comprendre au sens où c'est la Pâque du Christ qui fait véritablement des disciples ses frères. Or, dans la Pâque du Christ, le Christ a été ramené à l'infra-humain, à celui qui ne fait plus partie de la famille humaine. C'est vraiment ça qu'on lui fait subir par le supplice de la croix. Quelqu'un qui est retranché de la famille humaine. Ce passage par l'infra-humain semble indiquer qu'il n'y aura pas de vraie fraternité qui s'affirmerait dans l'oubli de ce qui, en nous, jouxte l'infra-humain. du fait de la violence subie ou répercutée. Autrement dit, la fraternité qui nous est annoncée par le Christ après sa résurrection n'oublie pas qu'elle est passée par l'infra-humain. Celui qui vient nous rendre frères les uns aux autres a été retranché de la famille. De même, et du coup, il n'y a pas de vraie fraternité qui laisserait de côté ou qui ignorerait ce dont nous sommes capables en termes de rejet dans l'infra-humain. Et de même, il n'y a pas de vraie fraternité qui laisserait de côté certains membres de la famille humaine qui seraient eux aussi repoussés dans l'infra-humain. Voilà qui campe la fraternité autrement qu'à partir d'un patrimoine que nous aurions en partage. Parce qu'il y aurait une manière de penser la fraternité comme ça. On est frères parce qu'on a quelque chose en commun. Même si ce quelque chose en commun, on l'appelle un père, un Dieu en commun. Mais voyez que penser la fraternité à partir de la Pâque du Christ, ça ne joue pas tout à fait de la même manière quand même. Notre patrimoine, si on veut aller dans ce sens-là, notre patrimoine consiste à être descendu aux enfers du fait de notre violence, du fait de ce qui en nous n'a plus visage humain. Et le Christ, en allant jusqu'à nos enfers, peut se faire le frère du plus misérable des hommes, et ainsi n'en laisser aucun de côté. Voilà, il me semble, un trait important de la fraternité dans sa déclinaison chrétienne. Voilà. Alors, si tout cela est exact, on peut énoncer à partir de là quelques caractéristiques de la fraternité dans sa déclinaison chrétienne. Et on pourrait dire que ce n'est ni une fraternité qui nous vient d'en haut, comme un universel qui nous serait à portée de main. Disons, on n'a pas cette naïveté-là dans la tradition chrétienne. On ne se pense pas d'emblée comme étant capable de nous reconnaître tous frères. Bon. Ou disons, si on le peut, en tout cas, ça sera pas. Il y a en même temps la conscience très forte que ça ne sera pas facile de vivre des relations de fraternité au sens de soutien mutuel, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un premier trait. Ce n'est pas non plus une fraternité fermée, une fraternité de l'entre-soi, dans un cercle clos. Mais c'est une disposition qui est offerte à tous, une disposition qui tient au fait que le Christ s'est fait le frère de tous et donc nous se propose de nous rapprocher les uns des autres, de nous rendre les uns aux autres frères. Et cette disposition prend effet dès lors que nous acceptons que celui qui nous rend frères les uns des autres provoque cette fraternité en étant passé par l'infra-humain, l'infra-humain dont nous sommes capables. Et ce faisant, il empêche que cette fraternité se réduise à l'auto-gratification d'un groupe. Voilà. Cette fraternité, pour être vraie, passe par la reconnaissance de ce dont nous sommes capables. Voilà. Et ça veut dire aussi que accepter le Christ comme frère nous permet à la fois de reconnaître et d'accepter notre propension à aller vers l'infra-humain. Et ce faisant, je crois qu'on peut dire qu'elle nous dispose à renouer avec ceux qui, à nos yeux, ne sont plus dignes de la famille. Voilà. Ça, c'était ma deuxième partie. Et je vous propose maintenant un petit développement, ça sera un petit peu ma conclusion. Ça sera pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans le champ politique, finalement ? Alors là-dessus, c'est simplement des balles que je vous envoie qui sont à reprendre par les spécialistes de philosophie politique. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé aussi vous entendre. Voilà. Avec la tradition chrétienne, on a affaire à une fraternité qui rend sensible une double altérité. Une altérité par rapport à Dieu, d'une part, mais aussi par rapport aux êtres humains qui sont les moins présentables, si on peut dire. Ceux qu'on aurait tendance à maintenir en dehors de la famille humaine. Et la tradition chrétienne va tenir fermement les deux bouts ensemble, en disant il n'y a pas de fraternité sans une ouverture à ces deux types d'altérité. Voilà. Ça, c'est un premier trait. Une telle notion de fraternité ne se présente donc pas comme un acquis de départ, et encore moins comme un patrimoine, mais comme une visée et une promesse. c'est que la famille humaine est à rassembler par-delà toutes les déchirures et les violences qui l'ont marquée. Dire qu'il s'agit d'une visée et d'une promesse, c'est aussi dire que cette fraternité doit à la fois se recevoir et se construire. Et ça ne peut pas se faire sans parole, sans geste et j'ajouterais sans pardon. Et c'est ainsi que cette fraternité va de pair avec la circulation de la parole, l'engagement dans l'action et la possibilité de recommencer ensemble malgré les déceptions qu'on peut avoir les uns des autres. Il me semble qu'à partir de là, ce symbole de la fraternité pourra jouer en politique non pas comme un étendard, mais comme un triple défi lancé à un pays et un État dans la manière d'organiser la vie ensemble. Un triple défi, donc un premier défi, c'est comment la conscience de cet appel à la fraternité nous conduit-elle, par exemple comme nation, comme pays, à relire notre histoire, y compris dans les phases où notre histoire est allée vers l'infra-humain. Voilà. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, fait-on place à chacun, a-t-on comme projet de faire place à chacun, y compris à ceux qu'on est très tenté de ne plus considérer comme membres de la famille. Voilà. Et là, vous voyez que ça aura des conséquences directes dans la manière, par exemple, de penser la justice. Est-ce qu'on va penser la justice comme une mise à l'écart des indésirables, finalement, ou bien comme une tentative ultime pour renouer avec eux et les faire revenir dans la famille? Voilà. Troisième élément, comment cette fraternité est-elle encouragée à s'ouvrir à l'étranger? Même si, en même temps, avec eux, évidemment, il faudra s'expliquer, parce qu'il y a toutes les chances qu'on n'ait pas en commun les mêmes codes, les mêmes manières de penser, de vivre la vie ensemble. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire à partir de ça. Merci pour votre attention.
Voilà, merci beaucoup Étienne pour cet exposé qui précise bien les choses, je crois, et souligne bien l'originalité chrétienne, on pourrait dire la spécificité de ce regard, insistant donc sur le côté fortement théologique de la notion. Alors, comme Étienne doit nous quitter, malheureusement, je crois qu'on peut poser quelques questions de précision, de prolongement, d'objection, comme vous le souhaitez. Oui. Là, au fond, vous avez... Oui. Que veut dire les indésirables, ouais, c'est ça? D'accord. Ouais. On peut peut-être prendre deux ou trois questions, ça permettrait. Est-ce qu'il y en avait une autre, j'ai l'impression, devant? Non, ben sinon, réponse, ça donnera le temps de non, réfléchir.
Les indésirables, oui, on peut dire, c'est tous ceux que nous sommes tentés, tous ceux qui nous font peur, en fait, voilà, on pourrait dire. Faire bref, et que nous maintenons dans la plus grande distance possible. Voilà. Parmi eux, on pourrait dire tous ceux qui nous font peur par les maladies qui peuvent les marquer, les handicaps qui peuvent les marquer, ou bien, disons, leur histoire personnelle qui rend la vie avec eux difficile. Il se trouve qu'ici au Centre Sèvres, depuis plusieurs années, on travaille à partir de ce que disent des personnes marquées par la très grande pauvreté, des personnes qu'on pourrait dire du quart monde. Voilà. Et bien très souvent, ces personnes-là disent, c'est vraiment un leitmotiv, qu'ils ont l'impression de ne plus être regardés comme des membres de la famille, voilà, tout simplement, y compris dans les communautés chrétiennes. Hein. Voilà. Alors on peut dire, mais... c'est des idées qui se font, etc. Mais c'est peut-être vrai, mais n'empêche que c'est la réalité qui nous renvoie. Voilà. Parmi aussi tous ceux qui nous font peur, on pourrait citer l'étranger. Et Dieu sait que en ce moment, il est quand même très facile de, disons, faire jouer cette fibre-là, comme M. Trump désigne les réfugiés comme des gens dangereux, par exemple. Ben voilà, on pourrait dire aussi tout le phénomène de désignation d'un groupe comme étant dangereux. Par exemple, ce qui s'est passé dans l'idéologie nazie. Voilà, il y avait des indésirables qui faisaient plus partie de la nation, par exemple. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Oui, on pourrait se demander, est-ce que dans la Bible, on en vient des fois à désigner des personnes comme étant plus dignes? Alors, il y a toutes les imprécations contre les adversaires, etc. etc. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça irait jusqu'à dire qu'ils font plus partie, disons qu'ils sont plus dignes de... Alors, ça, je ne saurais pas dire. Il faudrait que les biblistes nous aident. Là. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui seraient considérés comme étant plus dignes de faire partie du peuple? Alors, ça, on pourrait dire sans doute que oui, et c'est ce contre quoi lutte Jésus quand il va manger avec les pêcheurs, les publicains, etc., etc., et qui dit très gentiment à ses coreligionnaires que les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume des cieux, par exemple, voilà, chose comme ça. Alors, sans doute qu'il y a cette tentation, c'est sans doute une tentation constante, d'ailleurs, qui joue sur des ressorts anthropologiques, hein, d'écarter de nous ceux qui nous font peur. Et que ça, on retrouve ça y compris dans, disons, par rapport au peuple juif. Hein. Alors après, on pourrait se demander, est-ce que dans la Bible, il y aurait des fois des accents qui iraient jusqu'à considérer que des gens ne font plus partie de la famille humaine? Mais je ne sais pas du tout si on raisonne dans ces termes-là, d'ailleurs, dans la Bible. Mais il me semble pas. Il me semble pas que. Il me semble que cette question-là se pose pas trop. Voilà.
Oui, Bruno.
Mais. Mais c'est là que c'est important de garder à l'esprit que cette fraternité, c'est une promesse qui nous est faite et c'est du coup quelque chose qui peut orienter notre vie et notre existence. Voilà. C'est pas, disons, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va immédiatement être super sympa avec tout le monde et se sentir parfaitement frère, etc., etc. Non, non, pas du tout. Ça serait la négation de notre réalité. Mais ce qui est très important, c'est que le fait d'avoir cette promesse nous indique qu'on n'est pas tenu de nous en tenir à ceux qu'on a constaté qui nous oppose, qui nous a blessés profondément et qui nous pousse à désigner certains comme des monstres qui ne sont pas dignes de la famille. Voilà. Voilà ce que je dirais en très gros.
Ouais. Marie, Bernard avait une question, tu peux peut-être la prendre tout de suite et puis on arrête. Laisser du temps quand même à la suite.
Oui, merci Paul. C'est la question du politique. C'est fait partie de mon sujet. Donc vous avez conclu par ce biais-là. Et puis peut-être faire écho à la question de monsieur. En vous écoutant avec beaucoup d'intérêt, parce que le philosophe politique ou le politiste est toujours un peu provoqué d'une certaine manière, titillé. Voilà. Forcément, parce que il peut avoir l'impression d'être le méchant. Parce que la politique a ses raisons, ses exigences qui ne sont pas forcément celles de la fraternité. Et même si c'est pas incompatible, heureusement d'ailleurs, mais première chose, je mets un petit peu comme ça sur la table des observations. Hein. On sent bien, en vous écoutant, là, je crois en tout cas, la tension, la plus loin tension inévitable qu'il y a entre fraternité et politique. Alors, Lucien Jaume aurait été là, il aurait pu nous dire des choses, en effet, ça veut pas dire qu'il y a incompatibilité, mais tension, ce sens que, au fond, dans le christianisme, il y a une vision, on n'a pas prononcé le mot d'ailleurs, mais au fond, on a parlé de promesse, mais c'est un donné scatologique, au fond, c'est un accomplissement. Et le politique, lui, il vit pas de l'eschatologie, c'est pas son sujet. Il vit dans l'ici et maintenant. Alors, il serait souhaitable qu'il vive aussi avec une perspective historique, ça c'est un autre sujet énorme d'ailleurs. Mais une politique qui se voudrait être une politique de l'accomplissement, on en a connu d'ailleurs au XXe siècle, c'est redoutable. Alors, la question à laquelle j'en viens, c'est au fond, c'est que, qui est en même temps aussi une observation, c'est qu'il n'y a pas de politique de la fraternité, je dirais. Ça serait presque dangereux. Enfin, c'est pas trop. En tout cas, c'est une question. Qu'est-ce que serait une politique de la fraternité, et quels seraient les critères? Parce que alors, ça pose la question de y compris par rapport à l'Église d'ailleurs, adelphotes ou ecclésia, des critères de regroupement des humains. Les critères ecclésiaux ne sont pas les critères politiques. Et fort heureusement, il y a une différenciation. C'est-à-dire que les critères de regroupement politique reposent sur autre chose, sur d'autres formes d'héritage, d'autres formes de filiation. Hein. Un Français, alors sans être ethnique forcément, mais je veux dire, il y a ce que je veux dire. Donc le christianisme, il propose entre les... Alors, je vais m'arrêter là un peu, rassure-toi, mais est-ce que à la fois... On pourrait dire qu'il y a une subversion de l'idéal chrétien eschatologique de fraternité par rapport au politique, qui est une subversion qui est féconde, mais en même temps, ces subversions, elle est l'objet aussi d'une résistance, parce que, en même temps, le politique ne peut pas, il ne peut pas se subordonner non plus complètement à cette approche, parce qu'il a... il va affronter les conflits, il va affronter la violence, il va affronter un tas de questions. On n'est pas immédiatement précisément dans la fraternité. Vous voyez, c'est cet ensemble-là de questions que je voulais soulever, au risque d'avoir été un peu long. Excusez-moi.
Non, ça nous conduit à la deuxième partie que nous allons tout de suite introduire. Mais vas-y, Étienne, si tu as un mot.
Un tout petit mot par rapport à ça.
Il ne faut pas dévorer le temps des suivants.
Ouais. C'est simplement pour dire qu'il me semble que la fraternité chrétienne peut jouer comme instance critique par rapport à tout groupe ou toute nation qui se présenterait comme étant justement une fraternité accomplie, justement au nom de l'eschatologie. Et la deuxième chose, l'accomplissement dans la tradition chrétienne ne sera pas sous la forme de dire de chercher à ce qu'il y ait des sociétés parfaitement fraternelles, mais sous le mode du signe. Et ce signe, ça sera l'Église. L'Église comme étant... des personnes qui sont en chemin de fraternité, voilà, et qui à ce titre-là peuvent faire signe, notamment peuvent faire signe en nouant des liens de fraternité avec des groupes ou des personnes avec lesquelles les liens sont particulièrement difficiles ou improbables, l'étranger, etc., etc. Et faire signe là pour la société que on peut faire bouger nos imaginaires et on n'est pas obligé de maintenir hors champ certaines personnes. Voilà, en très très gros.
Très bien. Le débat n'est pas clos, mais il faut quand même que nous arrêtions en remerciant une nouvelle fois Étienne pour son intervention. Je vous propose que nous fassions quand même une petite pause de 5-6 minutes avant de passer à la seconde partie que nous ferons sans doute d'un trait jusqu'à 17h30. Donc on peut se donner 7-8 minutes jusqu'à moins 25. Et on recommence strictement à ce moment-là. Excusez-moi, mais... Voilà, merci Étienne. C'est dommage qu'on ne puisse pas... Ben, c'est sûr que par rapport à ami-ennemi, notre ami Schmitt, c'est un peu moins. Hein. Moi, je suis quand même frappé dans la Bible, l'hostilité entre frères, c'est quand même... C'est très terrible. Et même autour des questions d'héritage, alors quand on voit dans les familles, même en dehors de la Bible, quand on voit les familles, les haines entre frères et sœurs pour des questions de...
Oui, les questions de Marie sur l'héritage est vraiment intéressante.
Ah oui, bien sûr, oui. Bon, merci, écoute, bonne suite alors à toi. Tu vas une soirée chargée.
Je demanderai aux intervenants de... Oui, voilà.
Bien, je vous invite. Oh, c'est pas très fort.
Si, c'est bon.
Merci, très bien. Voilà, je vous invite à retrouver vos places et nous allons. poursuivre donc cet après-midi autour de la fraternité, qui est, dont le débat est effectivement bien lancé par Étienne Grieux, enfin, la manière dont il pose le problème. Et nous allons poursuivre donc notre réflexion justement sous l'angle ou sur le lien entre fraternité et politique avec Véronique Albanel, professeure de philosophie politique au Centre Sèvres, qui va nous donner donc une communication autour d'une question. La fraternité est-elle un modèle politique ? Eh bien, je vous cède la parole pour répondre à la question, Véronique.
Alors, je crois que ça marche, là. Oui ? Bon, c'est plus le point. Donc, la fraternité est-elle un modèle politique ? J'ai fait ça très rapidement parce que j'ai vu qu'Étienne en avait fait un, donc je me suis empressée de le faire en début de séance. Excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe, hein, et je l'ai vraiment fait, comme on dit vulgairement, à l'arrache, donc pardon. La fraternité, tout comme la République, est étonnamment préservée et d'actualité. À droite comme à gauche, ces termes gardent un pouvoir fédérateur et ils semblent épargnés par la montée des extrêmes, des violences de tous bords, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à un très beau livre qui date un peu, mais qui me paraît quand même toujours d'actualité. C'est le livre de Amin Maalouf, Les identités meurtrières, qui a donc été publié en 1998, parce que je crois que c'est quand même ça notre contexte. Il me semble étrange de voir coexister un besoin de fraternité, chez les Gilets jaunes en particulier, et en même temps des déclarations ou manifestations de haine à l'égard des élites, des députés, de la majorité, pas seulement d'ailleurs, ou des journalistes. Et vous savez que vraiment, c'est pas un petit phénomène, hein, c'est vraiment quelque chose qui dure, qui perdure, et qui me semble quand même inquiétant en termes de fraternité. Alors, une de mes premières questions, c'est est-ce que la fraternité serait sélective ? Faut-il la réserver aux frères de sang, aux frères d'armes, aux frères de race ? Est-ce que, voilà, ce n'est qu'un entre-soi avec ceux par affinité ou ceux qui ont fait leur preuve qu'ils pouvaient être fraternels ? Et je crois que la tentation populiste aujourd'hui, qui est vraiment de mise et qui semble prospérer largement, pas seulement en Europe, nous pousse en ce sens. Alors un bref historique dans cette introduction. Depuis la Révolution française, la fraternité républicaine a fait du chemin et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'au départ, elle était déjà en train d'osciller entre deux extrêmes. D'un côté, un romantisme, et je rappelle la phrase de Mona Ouzouf dans son dictionnaire critique de la Révolution française, donc sous la rubrique fraternité, et elle dit ceci, c'était une iconographie pleine d'oiseaux, de cœurs, de bambins, de baisers, de bouquets. Très réjouissant, n'est-ce pas ? Très chaleureux. Et à l'autre extrême, dès 1793, je vous rappelle la fin de la devise, hein, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Vous voyez, c'est tout un autre programme, beaucoup moins romantique. Je poursuis rapidement ce survol historique. Au XIXe siècle, Camus nous rappelle que pour le philosophe allemand Max Stirner, la fraternité n'est que, je cite Camus, la manière de voir des communistes le dimanche, en semaine, les frères deviennent esclaves. Vous voyez, c'est une espèce d'exception du dimanche. Alors, je reviens aujourd'hui, puisque vous le savez sans doute, la fraternité a été érigée en principe à valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas rien, ce qui est un véritable tournant, principe au même titre que la liberté et l'égalité, et cela depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, décision rendue à propos du fameux délit de solidarité. Voilà, si ça vous intéresse, je préciserai quelle est la portée de cette décision, dont on n'a pas encore de jurisprudence. Mais d'ores et déjà, nous savons que le délit de solidarité, tel que le nomment les associations, est loin d'être abandonné, puisqu'il y a encore peu, ce qu'on appelle les maraudeurs solidaires à Briançon ont été condamnés par le tribunal de Gap. Donc vous voyez la décision du Conseil constitutionnel, même en érigeant la fraternité, non pas une simple valeur, mais un principe à valeur constitutionnelle, ne règle pas tout à fait la question. Alors, la fraternité, c'est une devise, vous le savez, la devise républicaine, la troisième marche, comme disait Victor Hugo, pas la première ni la deuxième, hein. Elle est inscrite dans la Constitution de 58, et je rappelle de manière plus large qu'elle est reconnue à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dont je vous ai mis donc l'extrait. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Alors la question que je voudrais poser en cette fin d'introduction, c'est que reste-t-il de la fraternité universelle ? Et on peut être quand même quelque peu inquiet, puisque je le rappelle, tout comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, cette déclaration est plus que controversée aujourd'hui. Je rappelle qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme les droits de l'homisme. Vous voyez, c'est une caricature moqueuse. Et je rappelle aussi que cette déclaration de 1948 n'a à peine été fêtée, quasiment pas fêtée, elle est passée aux oubliettes, alors qu'on a fêté ses 70 ans le 10 décembre dernier. Alors, est-ce que cette fraternité universelle est encore un idéal commun, un horizon partagé, ou n'est-ce pas plutôt la dernière illusion prête à se dissiper, défendue par un monde occidentalo-centré, et l'on sait à quel point la fraternité n'est pas une valeur défendue par la Chine, la Russie, les États-Unis de Donald Trump, ou encore la Turquie, la Hongrie, et je pourrais allonger la liste. Je crois qu'il faut prendre au sérieux cette question, parce que je me dis parfois, est-ce qu'il est raisonnable de promettre une fraternité universelle ? N'est-ce pas naïf de rêver de fraternité dans un monde confronté au terrorisme, à la violence aveugle et barbare, mais aussi à l'injustice sociale criante et violente ? Et je vous ai mis juste après donc l'avertissement d'Albert Camus dans L'homme révolté qui me paraît toujours d'actualité. Il dit ceci, à force d'excommunication, de persécutions subies et rendues, la cité universelle des hommes libres et fraternels dérive peu à peu et laisse la place à l'univers du procès. Alors après cette introduction quand même quelque peu pessimiste, je tenterai malgré tout et avec toute l'humilité requise, imposée par les circonstances, de défendre la fraternité universelle comme valeur et principe, ce qui signifie à tout le moins refuser de choisir un camp, refuser de diaboliser l'adversaire, donc, pour faire bref, refuser la théorie de Carl Schmitt, et vous savez qu'elle a de beaux jours devant elle, par les populismes, notamment de droite, mais aussi de gauche. Je rappelle la théorie de Carl Schmitt, hein, c'est de définir le politique sur une seule notion, la distinction ami-ennemi. Et si vous supprimez cette distinction, il n'y a pas de politique selon Carl Schmitt. Cela implique, si l'on suit donc ce refus de diaboliser l'adversaire, cela implique de croire au dialogue, de refuser la haine, mais aussi la concurrence, et je crois qu'aujourd'hui c'est l'un des principaux sujets, refuser la concurrence entre les victimes. Il y a une surenchère de victimisation, refuser la concurrence entre les malheurs. Donc ne pas forcément choisir tout en reconnaissant qu'il faut s'engager quelque part. Après cette longue introduction, je voudrais juste terminer par un exemple, cette introduction seulement, terminer par un exemple concret qui m'a personnellement touchée et qui me sert parfois un peu de boussole, vous voyez, quand ma pensée me semble un peu défaite ou malmenée. C'est un exemple récent. C'est l'exemple de Daniel Knoll, je ne sais pas si vous vous souvenez, fils de Mireille Knoll, assassinée à l'âge de 85 ans parce qu'elle était juive. Et à la veille d'une manifestation de solidarité avec la famille et puis avec les juifs, il a dit ceci, « Il faut que nos amis musulmans viennent avec nous, la haine, ça suffit. » Vous voyez, je trouve qu'il est particulièrement impressionnant de voir que certains peuvent défendre une même constante, une fraternité ouverte, sans faire d'amalgame dans les situations les plus tragiques. Alors je commence tout de suite, c'est le grand 1. Vous voyez, il suffit de compter jusqu'à 3. Une critique, 2 traditions, 3 problèmes. Voilà le plan que je vous présente. Je commence tout de suite par une critique de la fraternité chrétienne en particulier, mais je voudrais tout de suite dire, d'abord c'est une critique qui est livrée au débat, et il faudrait pouvoir ajouter toutes les nuances nécessaires, parce que, encore une fois, ce n'est pas une critique de matraquage, hein. Arendt dit de très très belles choses sur le christianisme. Et je pense encore une fois que sa critique mérite d'être entendue. Alors je rappellerai juste, mais ça a été dit, que la fraternité, elle est ambiguë, elle est même suspecte, n'est-elle pas entachée de fratricide dès l'origine? Donc c'est un modèle quand même un peu délicat à promouvoir. Et j'ajouterai, en termes politiques cette fois-ci, qu'elle évacue la moitié de l'humanité, pardon, hein, de cette petite boutade, mais ce n'en est pas une. Elle évacue malgré tout la moitié de l'humanité qui est désormais tentée de se retrancher derrière l'étendard de ce qu'on appelle la sororité. Pardon pour cette expression barbare, hein, qui a franchi difficilement les frontières, mais le terme nous vient des États-Unis, il est particulièrement en vigueur en Espagne, et il veut pointer la solidarité qui unit les femmes entre elles. Voilà, en France, cela tente de percer depuis les années 70 et entend dénoncer le caractère exclusivement masculin de la fraternité. Je ne défendrai pas du tout cette position, je crois qu'on n'a pas le temps. Il y a des sujets trop graves et trop importants, mais je respecte ceux qui, encore une fois, sont soucieux de cette particularité-là. Si l'on suit Arendt, la fraternité ne saurait être un modèle politique pour trois raisons. Première raison, la fraternité comme la charité correspond, dit-elle, à l'expérience chrétienne de l'amour et cette expérience est incapable de fonder ce qu'elle appelle un monde commun, c'est-à-dire un monde politique, des hommes rassemblés et soucieux de construire un monde. Alors, je précise tout de suite, mais je suis obligée d'aller vite, que l'amour, même antipolitique, est très important chez Arendt. C'est pas parce qu'elle le qualifie d'antipolitique qu'il faut ne plus s'en occuper. Au contraire, c'est central. D'ailleurs, une de ses thèses, c'est l'amour du monde. Donc, vous voyez, il faut manier tout cela avec subtilité. Deuxième raison de l'écarter comme modèle politique, elle dit que la fraternité, ce qui est tout à fait vrai, provient des relations familiales et que ces relations familiales sont également antipolitiques. Et troisième raison, elle considère que la fraternité liée à la compassion est liée à la compassion dans la mesure où ce que les hommes cherchent à travers la compassion, c'est, je la cite, une solidarité avec le malheur et la misère. Je trouve que cet argument particulièrement intéressant. Alors, je vous ai mis une petite citation d'Arendt qui est tirée donc de Lessing. Lessing, c'est l'essai sur Lessing, c'est un premier essai qui se trouve dans Vie politique donc de Hannah Arendt. Et elle dit ceci. La fraternité ajoutée par la Révolution française à la liberté et à l'égalité a son lieu naturel chez les opprimés et les persécutés, les exploités et les humiliés, que le XVIIIe siècle appela les malheureux et le XIXe siècle les misérables. Cette chaleur et cette fraternité, il n'est pas question, bien sûr, de les récuser ou de les rejeter. Arendt ne dit pas un instant que ce n'est pas intéressant ni important, mais elle considère que c'est un substitut qui tente de compenser l'absence de réalité politique ou l'absence de monde commun. Vous voyez ? Et il faut savoir que quand on ne peut pas faire autrement, quand il y a des parias et qu'on est obligé de fuir ce monde, eh bien on est dans un monde qui n'est pas le vrai monde, ou la réalité du monde en tout cas à laquelle elle aspire. Et elle ajoute aussi, c'est le deuxième extrait que vous avez, « L'humanité des humiliés et des offensés n'a jamais survécu à l'heure de la libération, fût-ce une minute. Cela ne veut pas dire qu'elle ne soit rien, puisqu'elle rend effectivement l'humiliation supportable. » Mais cela veut dire que politiquement, elle est absolument non pertinente. Alors, je trouve que c'est un argument intéressant et si on lit attentivement Arendt de manière large, on se rend compte que la joie, le fait de partager la joie de l'action est infiniment plus, en tout cas, mise en valeur par Arendt que la misère ou l'humiliation voilà, qu'elle décrit. Un autre élément qu'elle prend compte, toujours dans cette critique de la fraternité, c'est que la communauté chrétienne, notamment, a voulu faire corps, le corpus, hein, et ses membres étant des frères. Et pour elle, le fait de faire corps, c'est forcément en prenant en compte d'autres qui sont en dehors du corps. En tout cas, comme pour les relations familiales. Et elle dit que aucun domaine public ne s'est jamais instauré entre les membres d'un corps ou d'une famille. Aucun ne peut naître probablement de la vie commune des chrétiens si cette vie n'a d'autre loi que le principe de la charité. Vous voyez, ça ne suffit pas à construire un monde, pas un corps, mais un monde. Bon, je passe sur sa critique où elle fait une étude très précise du christianisme primitif qui avait pour but en réalité, qui d'abord était persuadé que le jugement dernier était imminent, le retour du Christ était imminent, mais un de ses arguments, que je trouve pas inintéressant, c'est qu'elle s'appuie sur la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12, je vous cite, hein, où il est précisé que ce rapport entre frères suppose un rapport avec un dehors. Donc je lis. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, c'est Paul qui parle, hein, sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux du dehors et vous n'aurez besoin de personne. Vous voyez tout de suite que cet amour fraternel s'est forgé, selon Arendt, encore une fois, il y a matière à débat, sur le repli, le partage entre frères, la distance et l'indépendance à l'égard de ceux du dehors et la méfiance à l'égard des affaires publiques, puisqu'il est précisé ici, chacun, vos affaires, vos propres affaires, idion, mais c'est le contraire du koinon, c'est-à-dire des affaires communes. L'ambiguïté qui résulte de cette confusion entre vie chrétienne et vie familiale, et qui s'est prolongée entre le pouvoir du roi souverain et le pouvoir du chef de famille, toujours cette espèce, on a calqué le pouvoir du roi souverain sur le pouvoir du pater familias, dont je vous rappelle qu'il avait un droit de vie et de mort sur les membres de sa famille, n'a pas seulement, selon Arendt, dévalué la politique, elle a organisé le repli et la valorisation d'autres lieux, d'autres sphères plus intimes, la famille, le corps ecclésial, la communauté eucharistique. Et cette insistance sur l'unité du corps a atteint son apogée lorsque tous les pouvoirs ont été concentrés dans les mains d'un seul pouvoir, politique ou religieux, interdisant l'exercice de la pluralité. Parce que ce qui est en jeu, selon Arendt, c'est encore une fois la défense de la pluralité. Alors malgré ces critiques, je crois qu'il est possible de réactiver la notion de fraternité en la faisant glisser de la sphère familiale à la sphère politique et en la rebaptisant en quelque sorte, mais je crois que de fait c'est déjà le cas, non pas en la prenant au sens fraternel issu de la vie familiale, mais en la prenant au sens de filia, comme ça a été dit, filia politique, la notion d'Aristote. Je crois que cette notion qui reste préservée de manière très mystérieuse, je pense qu'on peut non seulement la réactiver, mais on peut s'appuyer dessus. Alors très rapidement, il y a deux traditions, mais vous le savez, deux sources, deux spiritualités, l'une républicaine, l'autre chrétienne, et j'aurais dû mettre dans l'ordre une républicaine, une chrétienne. J'ajouterai deux mystiques, et je crois qu'il n'est pas inutile de parler de deux mystiques, mais je n'oublie pas non plus qu'il existe d'autres traditions, ici je me concentre sur ces deux-là, mais il en existe d'autres, et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce magnifique ouvrage qui est un véritable plaidoyer pour la fraternité universelle, l'ouvrage de Gandhi, enfin des essais ramassés sous le magnifique titre « Les hommes sont tous frères ». Alors je commence par la fraternité chrétienne, qui est une évidence et j'irai très vite, hein, parce que je ne le ferai pas aussi bien qu'Étienne. Je rappelle juste Matthieu 12, 50, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur ». Et j'évoquerai juste aussi l'exhortation apostolique de 2013 sur la joie de l'Évangile, où le pape François va jusqu'à parler de fraternité mystique comme la joie de, je le cite, vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir. Et je trouve qu'il y a un véritable appel chaleureux à une fraternité concrète. Alors, j'insiste un peu plus sur la fraternité républicaine que j'appellerai ici laïcité, en m'appuyant sur un article de Monique Castillo qui est paru en 2016 dans la revue Études, où elle définit, qui s'est intitulé justement « La laïcité comme spiritualité ». Très très bel article. Bernard, jusqu'à, je ne l'ai pas. Monique Castillo définit la spiritualité laïque comme le courage de l'incertitude, comme une puissance d'inspirer et non comme un pouvoir de dominer. Je pense que c'est une très très belle définition de la fraternité, courage de l'incertitude, qui permet d'ailleurs une forme d'assurance intérieure, d'audace, de détermination à la fois forte et fragile. Elle insiste aussi sur le fait que la laïcité est la seule à pouvoir réconcilier la fraternité républicaine et la fraternité chrétienne, et elle est la seule à pouvoir unir nos forces contre les fondamentalismes. Et à ce propos, je crois qu'elle dit, enfin, elle fait une distinction que je trouve très précieuse pour nous aujourd'hui. Elle distingue entre le fondamentalisme de réaction totalitaire, l'islamisme radical, et le fondamentalisme de réaction identitaire. Et en termes de dangerosité à l'égard de l'ordre public, elle souligne que ce n'est pas la même chose. Et elle invite à ne pas réagir sur le même registre que ce premier fondamentalisme, à ne pas stigmatiser les fondamentalistes comme ennemis de la République ou immigrés inintégrables. Elle rejette surtout le manichéisme politique qui dresse les républicains les uns contre les autres. Alors j'en viens à ma troisième partir très très brièvement, trois problèmes qui nous sont posés, qui sont posés en termes politiques. Je pense qu'il faut les prendre en compte et malgré tout y répondre. Trois problèmes parce qu'il y a trois sphères qui sont problématiques. Il y a la première sphère problématique, c'est les laissés pour compte, c'est-à-dire ceux qu'on peut appeler les oubliés de la fraternité. Il y en a bien de nombreux, bien sûr, les plus pauvres, mais j'ajouterai les agriculteurs en détresse, j'ajouterai les migrants, tout un certain nombre de personnes qui n'ont même pas accès, encore moins que la fraternité, je dirais, à une vie vivable. Deuxième catégorie, les ennemis de la fraternité, je crois que ce n'est pas la même chose, ce sont effectivement les terroristes, ceux qui refusent les conditions mêmes d'une vie fraternelle. Et donc, pour faire simple, l'état de droit. Troisième catégorie, ce qu'on pourrait appeler les profiteurs de la fraternité, et je pense qu'il faut aussi les nommer, ceux qui abusent, et il y en a, mais je nommerai principalement des réseaux, pas simplement des petits passeurs, parce que ceux-là sont plus victimes qu'autre chose, mais les grands réseaux criminels, notamment de traite de personnes humaines, ceux-là sont vraiment des profiteurs ou des ennemis de la fraternité, tout simplement. Et la seule question que je voudrais évoquer ici, c'est comment démêler les fraternels, les justes fraternels des criminels, et surtout comment, lorsqu'on agit, ne pas servir, encourager le négatif. Comment, en étant ou en se voulant fraternel, ne pas nourrir ce qui est ennemi de la fraternité. Et je crois, avant de répondre rapidement sur ma solution, qu'il n'y a pas d'autre issue que de conjuguer la fraternité avec la justice sociale, avec l'égalité, avec la liberté. Et ce sont de véritables questions très lourdes. Et j'irai surtout avec un état de droit. Et je pense qu'aujourd'hui, l'état de droit est particulièrement fragilisé. Quelques mots sur la solution que je propose. Je propose une solution politique, encore une fois, c'est-à-dire une fraternité citoyenne. Ce n'est pas simplement une fraternité associative ou interpersonnelle, hein, mais une fraternité citoyenne que j'ai qualifiée de intranquille à plusieurs. Une fraternité citoyenne ne se fait jamais seule, ni même en interpersonnel. À plusieurs, toujours en tension, et elle s'efforce de conjuguer une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. Elle est capable d'engagement politique réfléchi, je pense notamment capable d'hospitalité, je crois que c'est nécessaire, capable de dire non, de poser un cadre, des limites, et surtout de tirer les leçons de l'histoire, les leçons des expériences passées, parce que je crois profondément qu'une fraternité sans mémoire est une fraternité sans avenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même le souci de ce qui s'est passé et de ce qui n'a pas marché. Juste trois petites remarques pour finir en conclusion. La fraternité n'est pas toute puissante. Elle n'est pas non plus impuissante. Elle est vulnérable et non souveraine. La fraternité doit pouvoir reconnaître des limites personnelles, des limites associatives, des limites étatiques. Et j'insisterai juste là-dessus. Je pense qu'elle peut reconnaître qu'il y a un champ du politique et en tout cas de l'État qui doit rester autonome. Je ne crois pas que nous soyons, nous, citoyens, même en termes d'association, capables de nous passer de l'État ou de nous substituer à l'État. Il est particulièrement, je pense, aujourd'hui encore souhaitable. Et je terminerai par dire que la fraternité connaît des échecs. Elle doit pouvoir se reconnaître humble et capable de rester constante, vigilante, mais tremblante et non pas arrogante. Voilà, je termine là-dessus.
Merci beaucoup, Véronique, pour votre communication qui nous a donné la réponse par rapport à l'impossibilité d'un modèle politique, mais en même temps en suscitant des questions fortes et sur lesquelles nous aurons à échanger tout à l'heure, paraît s'imposer. Mais avant d'engager le dialogue, je voudrais céder maintenant la parole à Laurent Lemoine, autre dominicain, théologien moraliste, psychanalyste, et qui nous propose de réfléchir sur une autre approche, un autre angle, en quelque sorte, de la fraternité, à savoir la fraternité, y croire parce que c'est absurde. Alors, on y va pour un petit peu de provocation, ça va nous faire du bien.
Bon, on m'a présenté, y compris le père Valadier, comme un provocateur. J'espère que mon titre est provocateur. J'espère ne pas trop vous provoquer, mais enfin, après les solutions qui ont, y compris Madame Albanel a donné à notre question du jour, la fraternité, je vais peut-être retourner dans le champ des questions et de la problématisation, peut-être un peu provoquant en effet. D'abord, bon, la fraternité, j'y crois parce que c'est absurde, c'est décalé complètement, comme vous l'avez compris de l'utilisation par Freud que lorsqu'il s'interroge sur les croyances, sur le fait de croire en Dieu, sur la possibilité de croire en Dieu, sur ce qu'on appellerait nous l'acte de foi, il reprend cette phrase attribuée à tort à Tertullien d'ailleurs, credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde, je crois en Dieu parce que c'est absurde. Alors on pourrait avoir la même provocation, de fait, sur le thème de la fraternité, dont on nous a déjà, enfin sur lequel on a déjà soulevé pas mal d'ambiguïtés, voire de contradictions, en disant, au final, comme disent les jeunes, tous au final maintenant, j'y crois parce que c'est absurde, j'y crois quand même parce que c'est absurde. Alors, est-ce que c'est ça? D'abord, le titre de cet après-midi, nous interrogeons pour savoir si la fraternité est un concept politique, si c'est un concept théologique, on a déjà eu des réponses. Ça n'est en tout cas pas, ou très peu, un concept psy, et en particulier psychanalytique. D'ailleurs, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que on pourrait penser que, après tout, les psychanalystes, après avoir travaillé le père, la mère et toute la famille, justement, auraient tout de même pu envisager les frères et les sœurs. Pas tellement. Et donc, il y a une espèce de... Ah, il doit y avoir un inconscient. Freud aussi avait un inconscient. Bon, et des autres psychanalystes sur la faiblesse, finalement, dans, si on peut appeler ça, la tradition psychanalytique du thème du frère ou de la sœur. C'est pas beaucoup traité, c'est absolument très très peu traité par Freud, un petit peu plus par Lacan, soyons gentils, et puis c'est traité par, avec à mon avis avec bonheur d'ailleurs, avec succès, par Gérard Haddad, qui est un psychanalyste qui a élevé récemment la fraternité au rang de complexe, hein, en disant finalement, on entend toujours parler du complexe paternel, le fater complexe, et bien de même qu'il existe un complexe paternel, si on veut comprendre quelque chose à notre vie psychique, il faut aussi considérer que la fraternité est, que le fraternel en tout cas, est un complexe. Ce qui rend déjà un peu moins étonnant les ambiguïtés, voire les contradictions de ce que nous vivons en termes de fraternel. Nous avons déjà, en particulier Étienne Grieux, évoqué ces ambiguïtés de la fraternité dans la Bible. Donc on a souligné bien entendu Caïn et Abel, on a mentionné Joseph et ses frères, on pourrait également, et je le cite volontiers là parce que ça n'a pas été fait, donc c'est l'avantage d'être le troisième intervenant, c'est que ça me simplifie la tâche pas mal quand même. Il me reste à vous parler quand même de saint Augustin, que j'ai tout de même envie de vous citer. Alors, vous savez que saint Augustin, alors la référence c'est Confession, livre 1, chapitre 7, et c'est la fameux passage où saint Augustin observe son frère de lait et il conçoit envers son frère de lait, le mot latin c'est invidia, I-N-V-I-D-I-A, invidia. Il conçoit une, alors on pourrait traduire par jalousie envers son frère de lait, mais c'est plus ancien que la jalousie, disent les commentateurs. Moi, vous savez, je m'inscris dans cette tradition. C'est plus que de la jalousie, c'est plus profond, c'est plus précoce, c'est plus archaïque, c'est de l'envie. La phrase est la suivante. Donc, Confession 1.7, il ne parlait pas encore, dit saint Augustin, il ne parlait pas encore et regardait pâle et farouche son frère de lait. L'invidia, c'est plus profond, plus ancien que la jalousie, l'envie. Et je vous proposerai volontiers le chemin suivant, alors ce sera ma solution à moi. L'enjeu de la fraternité, c'est probablement de passer de... Alors, il y a un petit jeu de mots. J'essaye d'être psychanalyste, donc ça fait toujours bien dans mon métier. C'est de passer de l'invidia fraternelle à l'invia. Donc, invidia à invia, en chemin, qui est également un concept augustinien. Nous sommes en chemin vers la patrie céleste. Parce que je pense que la fraternité ou le fraternel est toujours en chemin, et donc le but d'une trajectoire humaine, c'est d'essayer de passer, quant au fraternel en tout cas, mais beaucoup de choses d'ailleurs, de l'envie ou de la jalousie à ce chemin que nous sommes invités à faire. En effet, il me semble que quand je dis credo quia absurdum, la fraternité, j'y crois parce que c'est absurde. En quoi est-ce si absurde? Des croyances, nous en avons tous besoin. Il n'est pas plus idiot de croire en la fraternité qu'on croit en Dieu, qu'on croit en un objet, qu'on croit en quelqu'un qu'on aime, qu'on voit, etc. Qu'on croit que cette table est là, qu'on croit que... voilà. Nous avons tous besoin de croyances. La croyance est une capacité. Dans le meilleur des cas, elle est une capacité. Nous sommes capables de croire et nous avons besoin de croire pour que notre vie psychique se passe suffisamment bien. Et c'est pareil pour notre capacité de croire dans le frère ou la sœur. Bon. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il faut bien le dire que croire dans le fraternel, c'est aussi, ça peut aussi être un objet de croyance, hein, au sens de l'idéal, voire de la superstition, hein. Cela peut aussi tourner vers la conviction, et pourquoi pas la conviction délirante. Il y a un aspect dans la fraternité, et c'est là où parfois on se dit, ben, je ne sais pas, hein, credo quia absurdum, il y a un aspect, et ça a été souligné surtout par Étienne Grieux, de fratricide, c'est-à-dire La fraternité nous est, surtout la fraternité chrétienne, nous est souvent présentée, nous est souvent proposée comme un toujours déjà donné. La fraternité chrétienne, elle est toujours déjà donnée. On nous parle un petit peu de ce qui ne va pas. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il y a ces textes un peu atroces de fratricide. On les connaît, mais nous sommes arrivés, heureusement, nous sommes passés de la loi à la grâce dans le régime chrétien. Et donc, nous avons adopté le statut qui nous a été présenté dans Romains 8, n'est-ce pas, co-héritier, frère dans le Christ, etc. Bon, voilà. Donc, nous sommes arrivés à un stade mature, le stade chrétien de la fraternité. En réalité, je crains que nous ne soyons toujours, enfin toujours, en tout cas souvent, au stade vétérotestamentaire de la fraternité, même lorsque nous sommes chrétiens. En tout cas, ça peut nous menacer, à savoir ce que Lacan appelait, non pas le fratricide, mais la frérocité. C'est un néologisme assez amusant, il y en avait d'autres qui étaient moins compréhensibles, celui-ci est assez amusant, la frérocité. Il suffit de penser, là quand même, au texte, là quand même, oui, au texte de Freud sur la horde de frères. Vous savez, c'est un grand texte mythique, on pourrait dire, où Freud essaie de réfléchir sur les premières relations qui nous constituent. C'est Totem et Tabou, c'est Moïse et Monothéisme, c'est tous ces textes-là où Freud extrapole. Et c'est d'ailleurs le problème. Il extrapole à partir de sa pratique individuelle de psychanalyste des considérations sur l'histoire de l'humanité. Et en particulier ce texte sur la horde de frères, la meute de frères qui va tuer le père et qui va, et il en fait d'ailleurs ensuite une explication et d'autres ensuite ont fait cette explication, à savoir l'Eucharistie, par exemple, la ritualité chrétienne, permet d'apaiser la violence fraternelle, parce qu'il y a vraiment une violence inhérente à la fraternité, une violence fratricide ou frérode, ou fréros, si vous voulez, qui se cache, qui se dissimule comme des motivations ou des déterminations inconscientes derrière toute fraternité. Pour faire vite, idéaliser. Elle peut être fraternité chrétienne, elle peut être fraternité républicaine, toute fraternité idéalisée. Pour bien des raisons, la fraternité, c'est présent dans le thème, effectivement, on nous l'a rappelé, de la devise républicaine. La fraternité évoque spontanément une égalité des relations, en tout cas une égalité souhaitée, en tout cas désirée, idéalisée. Que reste-t-il dans cette égalité de l'autorité? De l'autorité qui régule, on va dire de l'autorité paternelle, par exemple. Et on souligne, à bon ou à mauvais droit, souvent le déclin de l'autorité paternelle, le déclin de la société patriarcale, et donc l'avènement maintenant de cette fraternité de tous les instants qui nous met en contact les uns avec les autres, de tous les instants, sans autorité. On s'en plaît à l'école, parfois on s'en plaît en famille, mais nous sommes tous égaux. Quelle autorité va être capable de réguler cette société sans père? Quelle autorité autre que ce que nous savons faire actuellement, c'est-à-dire des process? La défaillance de l'autorité est souvent comblée, mal à mon avis, ou remplacée, et mal à mon avis, c'est très insuffisant, par des process, des procédures qui valent autorité. L'évaluation, par exemple, etc., vaut autorité. Derrière la fraternité, quand elle est idéalisée, vous trouvez tout un tas de motivations inconscientes. Par exemple, et c'est le grand problème actuel, la haine. La haine. La fraternité peut être seulement ce qu'on appelle en psychanalyse une formation réactionnelle. Ça peut arriver. Une formation réactionnelle, c'est quoi? Par exemple, une personne qui se présente de façon, on dit, un comportement extrêmement doux, extrêmement apaisé. Cette douceur peut n'être qu'une formation réactionnelle par rapport à une violence ou une colère qui ne s'autorisera pas à s'exprimer. Donc derrière cette fraternité peut se dissimuler une haine désinhibée. C'est un thème d'ailleurs que on a travaillé il y a quelques jours avec Bruno Cinto, ici présent. Cette haine désinhibée qui s'affiche maintenant tranquillement, cette haine décomplexée, hein, puisque c'est le thème, cette haine décomplexée qui s'affiche actuellement des réseaux sociaux jusqu'à la société quotidienne ou les violences de rue. Observons que dans le phénomène de Daesh, hein, ce sont souvent des frères qui agissent, ce sont souvent des couples de frères, hein, ou ce sont des couples de frères qui émanent de communautés dites fraternelles, donc en l'occurrence qui peuvent être extrêmement violentes, de communautés, pourquoi pas d'ailleurs de communautarisme, dont on sait aujourd'hui les risques. Pour le thématiser autrement, Don Helder Camara, vous le savez peut-être, thématisait, formulait trois formes de violence. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces trois formes de violence, on maille à partir toutes les trois avec la fraternité, quand elle se fait en effet fréros ou fratricide. La première violence, dit-il, c'est la violence institutionnelle. Il dit c'est la mère de toutes les violences. La violence institutionnelle. Deuxième type de violence, la violence répressive. Pardon, la violence révolutionnaire. La violence révolutionnaire. Alors, ça, on a cité Madame Balbanel en particulier à quel point effectivement le facteur révolutionnaire, peut se faire violent. Et puis la violence répressive. Donc trois types de violence: institutionnelle, révolutionnaire, répressive. La violence institutionnelle, disons Helder Camara, étant la mère est celle qui commande les deux autres. Et je pense que le fraternel peut envahir et pénétrer ces trois formes de violence dont nous pouvons être les victimes. Parfois, j'espère pas les auteurs, mais voilà. Je mentionne également que cette haine qui s'affiche chaque jour, hein, déversoir par exemple des réseaux sociaux ou bien la rue, etc. Cette haine, dit Freud, est plus archaïque dans notre vie psychique, plus profonde, plus archaïque, plus ancienne que l'amour. Alors c'est très gênant ça, parce que ce combat entre l'amour et la haine, nous savons dans la foi qu'il a été gagné en Jésus-Christ, mais n'oublions pas que dans notre vie psychique, la haine est plus ancienne, plus précoce, plus durable, n'espérons pas, que l'amour. Dans la Somme de théologie, saint Thomas d'Aquin consacre, si mon souvenir est bon, une question de plus à la haine qu'à l'amour. C'est-à-dire, cette négativité de notre humanité n'est pas à négliger, c'est ma formule d'ailleurs pour être un peu plus ambitieuse, si l'on veut arriver à une fraternité chrétienne possible. Pour la fraternité chrétienne possible, je vous renvoie, le livre n'a pas été mentionné, et il est pourtant, à mon sens, non seulement très beau, mais très juste, ce petit livre de Benoît XVI, qui s'appelle « Frères dans le Christ », et qui était un très beau petit texte, pour décrire l'itinéraire d'une fraternité chrétienne. Alors que, derrière, passer de l'invidia à l'invia, donc passer de l'envie, jalousie, haine, à cette fraternité en chemin, ça suppose de sortir de la duperie. D'ailleurs, vous voyez, entre invidia et invia, il y a juste le D qui est tombé, et pour moi, c'est le D de la duperie. Bon, c'est la duperie de l'inconscient. C'est vraiment la duperie de l'inconscient. C'est ce qui se passe, à l'insu de nous-mêmes, lorsque, en réalité, la fraternité que nous essayons de vivre, masque, parce que l'homme s'avance masqué, masque quoi? L'emprise, la jalousie, j'ai déjà cité, mais l'emprise. Les perversions, il faut aussi le dire. Hein. Nous sommes dans un temps où non seulement la haine est désinhibée, je dirais tranquillement désinhibée, mais où beaucoup de psys, je pense à Charles Mellman ou à d'autres, écrivent sur les perversions ordinaires. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une exception, la perversion c'est très rare. Non, il y a aussi une banalité, hélas, on le sait par exemple dans les maltraitances professionnelles ou les maltraitances ou toutes les formes d'abus. Je n'ai pas besoin d'entrer plus dans le sujet. Des formes de perversion qui se dissimulent, qui peuvent même commencer. Médiel a écrit un texte dans La Croix, je crois, hier ou avant-hier. Les abus sexuels commencent souvent par des abus spirituels. Eh bien, les abus commencent souvent par une relation fraternelle, hein, avec un adulte en qui on a confiance, ou avec quelqu'un qui a autorité, justement, sur nous, et qui va abuser de son autorité pour dériver vers une forme de perversion, j'espère pas trop ordinaire, mais l'expression de Charles Mellman, que je trouve critiquable pour d'autres raisons, me paraît quand même très parlante, en l'occurrence, la perversion ordinaire. Alors si le christianisme est la religion de la sortie du religieux, il y a encore pas mal de travail à faire pour arriver à sortir du religieux, en l'occurrence, parce que le religieux, c'est mon hypothèse en tout cas, recouvre comme une pellicule invisible le fraternel que pourtant on essaye de construire. Il y a le fraternel en Christ. Le fraternel avec son champ lexical propre. Plus on développe ce vocabulaire, ce champ lexical, si vous voulez, en gros, ma thèse, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Plus on développe ce champ lexical, vous êtes enfant de Dieu, ça y est, c'est bon, c'est acquis, c'est gagné par le baptême, c'est acquis par, etc. Plus nous sommes cohéritiers, et plus on vous le dit, plus notre vigilance critique doit rester en éveil ou s'éveiller pour essayer de... Attention, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe là? Dans notre tradition biblique, nous avons Joseph et ses frères. Donc on a connu ça. On a connu ça. C'est toujours présent dans le cœur malade et compliqué d'une personne humaine. C'est toujours présent dans un groupe. Hein, et donc, c'est toujours objet pour nous de vigilance critique. Alors, et je conclurai par là, on fait quoi? Donc, passer de l'invidia, de l'envie intrinsèque, hein, de l'envie archaïque, à ce chemin du fraternel, c'est passer de la religion à la foi, selon un thème bien connu par ailleurs, hein, je le reprends là pour ça, parce qu'il est pratique, mais je pense qu'il est vrai, c'est-à-dire passer de la religion à la foi, c'est passer du fraternel, éternel, toujours déjà donné, constitué, vous êtes frères dans le Christ, nous sommes frères dans le Christ, chers frères et sœurs, à un invia, c'est-à-dire à un nomadisme de la fraternité, où nous partons et nous ne savons pas, comme Abraham, dans quelle direction, nous ne savons pas où nous allons. Le fraternel est toujours un chemin vers quelque chose d'inconnu, quitte à affronter certaines angoisses, c'est passer du toujours déjà connu à une itinérance, et par définition, nous ne connaissons pas. Alors on pourrait évoquer d'autres vocabulaires, si celui du chemin ou du invia ne vous satisfait pas. On pourrait dire il faut surpasser, il faut convertir ce religieux, il faut surpasser, il faut purifier. Hein, si nous sommes amateurs de théologie et de vie spirituelle, on va parler de purification du fraternel. Si nous sommes amateurs de Jean-Paul II, on va parler d'évangélisation du fraternel. On va parler de, si nous sommes amateurs de vie psychique et de thèmes psychiques, on va parler de castration du fraternel. On va parler de frustration, au moins, du fraternel. On pourrait même parler du principe de réalité de la fraternité et non pas du principe de et non plus du principe de plaisir, hein, ou qui peut dissimuler bien des difficultés. Autrement dit, et c'est mon mot conclusif, la fraternité est en effet une tâche, hein, toujours, tant pour des raisons psychiques que pour des raisons théologiques, hein, tant pour ce qu'il y a en nous de chaotique, comme dirait la Genèse. C'est donc une tâche, une brèche, hein, une brèche ouverte, un appel, un nomadisme, une itinérance qui n'est une claudication. Moi, je reprendrais bien ça. Je pense que tout nous montre, aussi bien la Bible que notre cœur malade et compliqué, comme dit l'Écriture, hein, comme dit la Bible, tout nous montre que le fraternel est une réalité boiteuse. Et donc, je prendrais bien Genèse 37, hein, cette blessure à la hanche, hein, pour décrire le fraternel, où le fraternel est une réalité boiteuse, mais boité, commente Freud, mais il reprend un poète, hein, boité n'est pas forcément péché. Je vous remercie.
Eh bien, c'est nous-mêmes qui te remercions aussi, Laurent, pour ta riche intervention, et avec les outils donc de la psychanalyse qui viennent perturber un peu les affaires, je dis perturber dans le bon sens du terme, comme tu l'auras compris, et donc nous inciter un peu plus à réfléchir sur les défis ou les difficultés aussi, la notion même de fraternité. Alors je vous cède la parole, maintenant elle est à vous. Saisissez-vous de la parole, justement, voilà. Je ne peux pas faire un jeu de mots psychanalytique, mais ça parle dans l'Assemblée, c'est ça, on peut le dire. Ça va parler peut-être dans l'Assemblée. Espérons-le d'ailleurs. Madame. Ah bah, on n'en perd pas, non, au contraire. Qui perd gagne ? Qui perd gagne ?
Oui, alors je précise, plus précisément, c'est pas l'État, c'est le Conseil constitutionnel, hein, qui est une... Ah, vous savez, l'État est composé d'autorités aussi indépendantes et de justice. Le Conseil constitutionnel, c'est une autorité de justice.
Oui, c'est... Oui.
Oula, bon. Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas jeter le discrédit, surtout quand il s'agit d'une bonne nouvelle comme celle du mois de juillet 2018, il faut s'en réjouir. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Et ça se comprend tout à fait. Il n'est plus d'élite solidarité, c'est-à-dire que la fraternité, les raisons humanitaires de venir en aide à des migrants, même en situation irrégulière, sont parfaitement légitimes et ne sont plus poursuivies par les tribunaux. Lorsqu'il s'agit de venir en aide, y compris pour de l'hébergement, pour de la nourriture, ou pour du transport, ce qui était une question extrêmement importante, c'est-à-dire du transport sur le territoire national. Par contre, et vous avez raison, mais ça peut se comprendre, vous l'avez présenté d'une manière tout petit peu orientée, c'est-à-dire qu'il y a d'autres règles d'ordre public, notamment la sécurité publique, qui font que faire rentrer quelqu'un, l'encourager, l'aider, le faire passer en voiture, la frontière italienne ou la frontière, toute autre frontière espagnole, puisqu'aujourd'hui les arrivées arrivent massivement par l'Espagne, ça c'est irrégulier. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a reconnu un principe de fraternité, un principe de valeur constitutionnelle pour toutes les aides, sauf lorsqu'il y a une question d'ordre public qu'il considère comme ayant une valeur constitutionnelle aussi. Alors, à Briançon, c'est très simple. C'est la même chose que dans la Roya, la vallée de la Roya. Hein. C'est-à-dire que les migrants cherchent à pénétrer dans le territoire français, y compris par les Alpes, dans des situations absolument tragiques, hein, parce que souvent, c'est des zones enneigées, dans un froid, de nuit, pour échapper au contrôle. Et ce sont des maraudeurs. Donc, encore une fois, c'est très délicat, hein, mais viennent en aide, apporter une soupe, etc. Le cas s'est présenté de la même manière pour Martine Landry, vous avez peut-être entendu son nom, 73 ans, militante quand même, déjà digne d'Amnesty International, qui a été relaxée juste après cette décision du Conseil constitutionnel, mais le parquet a fait appel. Donc c'est très compliqué, parce que là, il s'agissait de faire rentrer de manière pédestre, hein, à pied, traverser la frontière italienne. C'est compliqué et honnêtement, je serai un tout petit peu plus prudente parce que je crois que le jour où on dira la fraternité, oui, y compris pour faire passer la frontière, vous pourrez faire entrer des passeurs et des criminels, vous savez. C'est compliqué.
Oui, ça peut être moi ou vous, c'est-à-dire pour le... Bon, il y a les ambiguïtés du fraternel que j'ai essayé de... J'en ai essayé d'en mentionner quelques-unes. Moi, j'ai souvent l'impression que, en termes d'espoir, ce que l'on essaie de promouvoir du côté de la fraternité et du politique, ça a quelque chose à voir avec... lorsqu'on arrive à avancer dans cette tâche de la fraternité, ne serait-ce que la fraternité républicaine, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est quelque chose comme l'humanité de l'homme. Enfin, l'humanité de l'homme, j'aurais aussi quelques réserves, mais l'humanité de l'homme, où Madame Albanel mentionnait, bon, les droits de l'homme jusqu'au droit de l'homisme. Si je citais quelqu'un, ce serait du coup Primo Levi, si c'est un homme, et on pourrait, si c'est un frère, on pourrait dire, si c'est un homme, si c'est un frère, je ne peux pas faire moins qu'eux. C'est-à-dire, du coup, la fraternité, sur le plan de l'éthique politique, représenterait ce que Primo Levi recherchait en termes de ce qui nous rassemble au plus intime, au plus cher de nos vies, si vous voulez, quitte à payer de sa vie la chose. Hein. Et donc, la fraternité, c'est cette tâche-là, donc c'est effectivement un avenir, mais cet avenir se rappelle à notre présent de façon extrêmement violente parfois lorsqu'il s'agit, comme Primo Levi, de vivre et si c'est un homme, mais si c'est un frère, je ne peux pas faire moins qu'eux. Et non seulement je ne peux pas faire moins qu'eux, mais je dois. Alors est-ce que c'est de la déontologie, je dois en tout cas me manifester au titre de notre commune humanité et donc de notre commune fraternité. Bon, quelque chose comme ça. C'est pas Malraux, pour moi, ma référence, ce serait de vieilles lectures que sont Primo Levi, mais je trouve que il y a quelque chose comme ça, en dépit de toutes les ambiguïtés, elles sont extrêmement fortes liées à ce terme.
Merci, monsieur.
Radicalement à votre opposition. Non, mais humoristiquement, mais plus fondamentalement, en fait, là, mais vous avez compris un aspect de mon propos, mais pas entièrement. C'est-à-dire que je ne le décrivais pas comme une tâche à accomplir, je le décrivais comme un constat marquant, traversant nos sociétés actuelle, c'est-à-dire un constat que je peux regretter comme vous, c'est-à-dire un constat où je peux dire comme vous, c'est quand même dommage de passer, quand on dit fraternité, de passer obligatoirement par la case égalité, parce qu'il y a les différences qui nous enrichissent, etc. Mais je n'ai pas parlé en jeu. Mais j'ai parlé en décrivant un constat qui est souvent d'ailleurs, qui est l'objet d'une controverse, parce que certains en sont, pour de bonnes raisons d'ailleurs, très contents. C'est-à-dire, il y a quand même dans l'égalité un résultat assez positif, souvent, par rapport à des injustices, quand l'égalité corrige une injustice. Mais on peut, en sens contraire, ce que vous disiez, je peut partager tout à fait ça, dire les égalités sont quand même un facteur de nivellement, on perd en richesse, on perd en originalité, on perd en position subjective, c'est-à-dire que si nous sommes égaux, de toute façon, rassurez-vous, et là c'est pas un père de l'Église qui a dit ça, certains sont plus égaux que d'autres, n'est-ce pas ? Et donc, on perd en position subjective. L'égalité, effectivement, d'abord, elle n'est pas, elle est toujours fantasmée, et en plus, on perd cruellement en position subjective. Donc oui, vous avez bien compris quand j'ai dit que la fraternité supposait une promotion, si vous voulez, de l'égalité. Je ne l'ai pas dit pour forcément le soutenir. Je l'ai dit parce que c'est souvent dit qu'on le déplore, comme vous, ou qu'on dise, au contraire, c'est très bien. Et certains disent, vous savez, non, c'est très bien, mais il faut aller plus loin. Donc c'est l'objet d'une controverse. Mais par exemple, le fait de, même dans le vocabulaire, hein, Bernard Bourdin, qui est à mon côté, qui est dominicain comme moi, me contredira s'il a l'impression que je dérape. Mais dans d'autres types de clergé que le nôtre, pendant des années, des dizaines d'années après le Concile, nous ne sommes plus appelés des pères dominicains. Mais nous avons été extrêmement heureux de remplacer, bon, c'est pas compliqué de le remplacer, ça existe aussi dans notre tradition, d'être appelé par le thème de frère, en disant, le frère, c'est quand même une relation qui définit une proximité plus grande, plus spontanée, plus partnership, mais même dans la théologie. Hein. Jésus, notre frère, est un thème très mis en valeur dans la théologie ou dans l'exégèse contemporaine. Bon, ce qui a beaucoup agacé d'ailleurs Joseph Ratzinger, ce thème du partnership fraternel avec Jésus. Voilà, et donc nous sommes aussi dans la vie dominicaine, par exemple, passés d'une société de pères à une société de frères. Ce qui n'a peut-être...
Je pense au lieu vide de Claude Lefort. Je crois qu'il y a forcément un lieu... qu'on parle de la fraternité, de la justice, de la liberté, de l'égalité, de toutes ces valeurs qui sont en principe supposées nous inspirer, nous servir, qui sont aussi fédérateurs. Je crois, quelles que soient nos valeurs, si tant est que nous en ayons des communes, parce qu'en fait, si l'on va trop loin, qu'est-ce que nous avons encore en commun, si ce n'est des individualités avec une haine exacerbée, fantasmée. Enfin, moi, je crois, encore une fois, qu'il y a peut-être pas de père. Et si le père c'était le roi autrefois, honnêtement, ça ne me dit rien de revenir à ce père-là. Si le père c'est le président de la République, ça ne me dit pas davantage. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est à mon avis quelque chose de beaucoup plus horizontal, un appel à être des citoyens. Moi je préfère honnêtement le terme citoyen ou d'amitié ou peu importe, même si l'amitié promet beaucoup, donc c'est un peu délicat. Mais encore une fois, le lieu vide de Claude Lefort, c'est de dire qu'il y a bien un lieu qui devrait nous fédérer et nous appeler, et sur lequel nous pourrions ou devrions être d'accord. Appelons-le contrat social, appelons-le constitution, appelons-le l'État, je n'ose l'employer, parce que visiblement, il déclenche quelques petites réactions allergiques. Mais c'est dommage, parce que je crois que l'État de droit, nous ne mesurons pas à quel point il est précieux, et le jour où nous ne l'aurons plus, nous pleurons de chaudes larmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, un lieu vide, oui, il y en a un.
Me permet un petit ajout. On parle donc de société sans père et mais le propre du père, ça a toujours été de décliner. Et donc la réflexion qui est la nôtre sur la disparition de la figure paternelle est déjà une réflexion grecque, hein, où on décrit le père comme étant la figure qui décline, et on s'en plaint déjà beaucoup, hein, un peu comme pour l'éducation, ne serait-ce que l'adage « la mère est très certaine, le père est incertain », qui est que l'on retrouve aujourd'hui, etc. Mais donc il y a aussi un effet un peu de trompe-l'œil du déclin du père. Il y a aussi des pères invisibles, hein. Il y a des autorités. Alors, ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle semble favoriser la confusion entre l'autorité et le pouvoir, probablement, puisque l'autorité semble moins clairement posée, le pouvoir risque de proliférer, et je veux dire le pouvoir, la potestas au sens pas toujours clairement affirmée, mais en prise et autres manipulations. Donc là, probablement, c'est un des aspects les plus nocifs de la situation actuelle. Mais le déclin du père, c'est bien attesté depuis longtemps.
Bonjour Saint-Ou.
Ici, au pouvoir d'inspirer et non pouvoir de dominer comme, voilà, comme lieu de la fraternité. Je pense que c'est peut-être un peu plus modeste comme affichage. Hein, comme c'est pas, je résiste par contre sur le fait de la mettre en premier, y compris comme solidarité. D'abord parce que quand on relit l'histoire du 19e, certains interprètes de la fraternité disent que si la fraternité n'a pas était normative, c'est-à-dire productrice de droits et productrice de normes juridiques, comme la liberté et l'égalité, c'est parce qu'elle l'a obliquée vers la solidarité sociale. Et quand on fait d'en faire un devoir, il faudrait d'abord dire auprès de qui le devoir. Est-ce qu'on transforme la solidarité en universelle? Mais on voit tout de suite un terme politique jusqu'où on est incapable d'aller. Est-ce qu'on ne promet pas plus, surtout si on passe par le devoir de solidarité, le devoir d'aider? Je crains fort honnêtement qu'on aboutisse à quelque chose qui nous dépasse. Donc, pour moi, la fraternité, elle promet moins, il me semble. Elle a quelque chose d'assez spontané que la solidarité. La solidarité suppose une organisation, quelque chose d'extrêmement structuré, des œuvres de solidarité. Donc, je ne suis pas convaincue. En tout cas, le 19e n'a pas tant réussi que ça à la mettre en œuvre. Mais peut-être que... Avec grand plaisir. Oui, peut-être. Citoyenne, telle que je l'ai un peu trop rapidement présentée, elle tire vers, peut-être vers l'égalité, c'est-à-dire qu'elle est reconnaissance qu'il y a une réciprocité nécessaire. Ce que je n'entends pas dans le terme solidarité, ou la fraternité, elle suppose de reconnaître l'autre comme étant non seulement capable, notamment avec des potentialités, mais capable aussi d'être en relation et d'être en capacité de retour. Et au fond, moi personnellement, je pense qu'on est arrivé à un seuil justement lié à cette exigence d'égalité. Il suffit de relire Tocqueville, hein, cette passion de l'égalisation des conditions. C'est pas simplement dans l'air, c'est que on ne supporte pas. Enfin, suffit de voir ce qui s'est passé avec Chantal Jouanneau, comité du débat public. Non, son salaire, c'était pas acceptable. Alors après, on peut penser à toutes les manipulations possibles, mais il y a un besoin d'égalisation des conditions. Et je crois que finalement, la fraternité, c'est reconnaître, parier sur le fait qu'il y a une relation réciproque et pas une relation condescendante, une relation de charité. Et ça, c'est éminemment politique. C'est quelque chose qui est à construire, mais qui est exigeant des deux côtés. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement venir en aide ou venir soutenir. Voilà, c'est exiger un rapport responsable, réciproque. Et je crois honnêtement qu'on n'a plus tellement le choix. On n'a plus tellement le choix. Maintenant, avec tout, voilà, toutes les impasses que ça suppose, parce que je me dis que les SDF dans la rue... On rêverait de dames de la charité ou des voilà de Saint-Vincent de Paul, bataillons qui reviennent en force et qui fassent quand même la charité. Bon.
Ben écoutez, je vous fournirai volontiers les textes de référence sur la question, mais c'est peut-être une fake news de ma part, mais enfin, en tout cas, aussi bien Freud que Mélanie Klein, par exemple, voilà. Ah, écoutez, alors ne parlons pas de la Bible, ne parlons pas de Saint Thomas, ne parlons pas de... si vous fiez qu'aux autorités les plus récentes, pour la tradition, ça va être très ennuyeux. Hein. Très, très ennuyeux. Mais écoutez, je vous laisse sur votre sidération, chère madame, mais je peux vous fournir les textes. Essayez de vous désidérer. Ce sera un bel itinéraire de désirant de vous désidérer. Et là, si j'étais pour vous la Gorgone, je le regrette, mais je peux vous fournir les textes si vous voulez. Oui, que je connais bien. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est ce qui serait le pire pour la fraternité, mais le pire n'est pas toujours sûr, mais en même temps, par les temps qui courent, ce serait de favoriser une fraternité ou des liens fraternels que vous avez évoqués qui confondent l'identité, puisque vous avez et l'identitaire. Et j'observe que depuis quelques années, tout de même, quand on travaille la question, par exemple, du communautarisme, etc., les chercheurs, enfin les auteurs, essaient de plus en plus de répondre à votre question. Donc il y a une littérature là-dessus, il y a des qui vont peut-être pas jusqu'à des solutions pratico-pratiques de chaque jour, mais le grand défi, c'est la confusion entre l'identité et l'identitaire. Et c'est une confusion qui est savamment entretenue et qui peut des glissements quasi invisibles ou qu'une société communautariste peut promouvoir, qu'une fraternité qui mimétique peut en effet promouvoir, et donc tout ce qui peut distinguer l'identité, notamment l'identité chrétienne de sa réclusion ou de dans l'identitaire, est bienvenue, parce que l'identitaire, c'est vraiment une diminutio capitis de l'identité chrétienne. Voilà. Mais c'est un péril que certaines passions tristes peuvent entretenir, politiquement en particulier, mais surtout, c'est d'autant plus facilité que, comme chacun sait, et là c'est un truisme total, nous sommes dans une société polymenacée, ouverte à tout et n'importe quoi. Donc Trump remettra un mur. Alors est-ce qu'un mur, ça fait l'identité ou l'identitaire? Voilà. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le pontificat du pape actuel s'est ouvert avec la question des passages, des frontières, à mon avis, c'est ma lecture, pallier la réduction de l'identité à l'identitaire. Et ça se fait pas si facilement que ça, vous voyez, puisque sur certains sujets, on parlait d'immigration et tout, le pape peut dire ce qu'il veut, ouais, voilà, il dit ce qu'il veut.
Peut-être sur la question première que vous aviez posée, notre rapport aux réfugiés, à JRS, donc le service jésuite des réfugiés. Je dirais que la fraternité n'est pas première. En tout cas, c'est pas tellement ça qu'on met en avant. Pour une raison, honnêtement, je ne me l'étais pas posée avant que vous la posiez, mais je pense que ce que nous évitons, c'est de miser sur la relation affective. Et derrière le mot fraternité, il y a quelque chose d'affectif. Et en fait, dans l'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés dans des familles, par exemple, ou dans des communautés religieuses, on met en garde contre des liens affectifs de type familiaux. Ça ne veut pas dire, quand j'ai un accueilli, on m'appelle parfois maman, voilà, dans une tradition, par exemple, africaine. Mais moi, j'essaye, en tout cas, le conseil qu'on nous donne, et ça fait quand même un peu plus de 10 ans que le programme Welcome est mis en place, donc on a eu le temps de mettre en place une charte des bonnes pratiques et d'essayer de réfléchir à la bonne distance affective. Et cette bonne distance, elle suppose à la fois qu'il n'y ait pas de cocooning, et dans la fraternité, il peut y avoir du cocooning. Donc pas d'appropriation, c'est pas mon réfugié, c'est pas mon fils, c'est pas mon frère, non. C'est une personne, et alors, il faudrait dire un petit mot, qui est à la fois, il y a un accueil inconditionnel, parce qu'on n'y a aucune limitation ou discrimination de type professionnel, ethnique. On n'accueille pas que les chrétiens, on n'accueille pas qu'un pays, qu'une situation. Et en même temps, il y a un cadre, donc il y a à la fois de l'inconditionnel et du conditionnel. Et si je devais dire les termes que nous mettons en avant, c'est plutôt l'autonomie, l'autonomisation de la personne en vue de l'intégration. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'elle quitte le lieu familial. D'ailleurs, elle passe dans plusieurs familles. La réciprocité, ce qu'on appelle l'interculturalité, ça c'est vraiment très mis en avant, c'est-à-dire la culture partagée, la personne a une culture. Et finalement, la fraternité, elle a elle peut dire « Ah, mais c'est la fraternité française !» avec sa devise. Ben non, nous, on apprend d'autres cultures et on met en œuvre, en valeur, leurs talents, ce qu'ils savent, et nous apprenons mutuellement. Donc en fait, c'est plus une forme de réciprocité, de partage de talents, je ne sais pas comment dire, mutualisation.
Bon, écoutez, je crois qu'on a, je dis pas qu'on a fait le tour, ça serait présomptueux de dire ça, mais on n'a pas tout à fait terminé. Hein. Mais la tâche d'une conclusion, c'est jamais de faire une synthèse de ce qui a été dit, bien évidemment, parce que c'est impossible, ou ça serait assez difficile. Mais j'aurais essayé de ressaisir quelques points avant de nous quitter par rapport à tout ce que nous avons. D'abord, ce que nos intervenants ont dit est d'important. Et puis, les échanges que nous avons eus à la lumière de vos questions ou de vos remarques, de vos propositions. Et en n'oubliant pas l'intitulé et la problématique qui a été proposée par Paul Valadier et moi-même, fraternité, un concept politique ou un concept théologique? Alors, on voit bien quand même qu'il y a une tension importante quand même. On peut pas le nier. D'ailleurs, Paul tout à l'heure le soulignait. Enfin, je crois l'avoir compris comme ça. On pourrait même ajouter un concept moral qui n'est pas forcément lié à la théologie. Est-ce que c'est un concept politique, un concept moral, un concept théologique? Alors, on pourrait aussi introduire d'ailleurs par la psychanalyste ce que tu as dit. Donc, on pourrait même, on doit le faire puisque tu l'as fait toi-même par l'apport des sciences humaines, des sciences sociales, en l'occurrence la psychanalyse. Et on voit bien que ce concept, et c'est un concept d'ailleurs, je sais pas, enfin en tout cas, bon, appelons-le au moins une notion, est éminemment polysémique. Et qu'il est très difficile, et à mon avis certainement pas nécessaire d'ailleurs, de ramener cette notion à une approche univoque. Parce qu'on risque en effet de se mettre en quelque sorte, se trébucher, en fait, en réalité, on n'arrive pas à saisir la notion et entrer dans un dialogue de sourds. Par exemple, ce qui m'a frappé, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, notamment une, et je l'attendais d'ailleurs, elle est arrivée à un moment donné, c'est quand le Père Saint-Ouen en particulier, mais je crois d'autres avant vous, ont parlé de solidarité. Et on sent bien que fraternité et solidarité sont-ils la même chose? Je n'en suis pas convaincu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais c'est pas la même chose. Être solidaire, c'est un « je » et un « tu » qui se retrouvent et qui disent « je te connais pas, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ceci, je suis solidaire ».« Solidum » en latin, c'est devenir plus solide. Hein, grâce à moi-même, ou grâce à un autre, je deviens plus solide, ou grâce à moi, je deviens plus solide. On est plus solide. Mais chacun continue à mener sa vie. Bon, ça fait pas une fraternité, forcément. Ça fait une solidarité. Et il me semble que il faudrait pas perdre de vue, quand même, que si on veut effectivement avoir une vision exigeante de la fraternité, qu'elle est constitutive d'un « nous ». La solidarité n'est pas forcément constitutive d'un « nous ». Nous sommes solidaires. Point final. Et tout, puis ensuite on peut continuer son chemin. Hein. Je vois pas en quoi c'est incompatible. Je suis pas chargé de partager toute ma vie avec la personne à qui je suis solidaire. En revanche, quand nous sommes dans la fraternité, il y a un nous. Et le nous, c'est là que la polysémie, la notion de fraternité apparaît en quelque sorte. Hein. Puisque ce nous, quel est-il ce nous? C'est un nous religieux. Alors, je pense à un nous ecclésial, nous en parlait tout à l'heure, Étienne Grillet en parlait très bien. Est-ce un nous moral, une sorte de communauté morale, qu'elle soit religieuse ou séculière? Ou est-ce un nous, effectivement, politique? La psychanalyse, à mon avis, est transversale par rapport à tout ça. C'est le poil à gratter de l'inconscient individuel et, je dirais pas collectif, ça fera trop jungien, mais sociétal. C'est ce qu'il y a d'archaïque en nous qu'on ne saisit mal, en quelque sorte. Je retraduis ça comme ça. Donc la psychanalyse, c'est pas une quatrième catégorie, elle est transversale à ces quatre, à ces trois manières de former un nous, soit religieux ou théologico-religieux, moral ou politique. Et c'est pas les mêmes nous. Et ils ne peuvent pas se confondre. Alors, en même temps, je dis pas qu'ils s'ignorent. Ils peuvent se sédimenter, se travailler, s'interpeller. D'où mon propos tout à l'heure par rapport à la communication d'Étienne Grieux sur l'aspect subversif de la fraternité par rapport à un nous politique. En même temps, quand je dis subversif, c'est pas au sens péjoratif, c'est au sens où il y a un excès du nous politique par une fraternité qui est plus grande. Mais en même temps, le politique n'acceptera jamais de se laisser subordonner à des impératifs qui viendraient d'en haut. Ou alors, il n'existe plus comme nous politiques. Et c'est là, à mon avis, le dilemme, la difficulté, mais au sens positif. C'est qu'aucun de ces nous ne peuvent se ramener l'un à l'autre. Il n'y a jamais eu, en tout cas jusqu'à ce jour, de société générale du genre humain. C'est-à-dire que si je suis fraternel avec un immigré qui vient d'ailleurs, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire un nous politique. C'est un peu ce que disait Paul, à mon avis. Il n'y a pas une société générale du genre humain. C'est-à-dire que les Afghans rêvent des Afghans, les Irakiens restent des Irakiens, les Français rêvent des... Il n'y a rien de nationaliste à dire ça. C'est-à-dire que ce sont des réalités anthropologiques, culturelles, politiques, irrépressibles ou irréductibles. Alors, en même temps, le nous de l'identité, un nous constitue forcément, faut pas se voiler la face, une identité. Sinon, à quoi s'identifie ce nous? Si nous sommes fraternels et que nous constituons un nous, c'est que nous reconnaissons dans une identité commune. C'est fatal. Le seul piège, effectivement, et Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est que l'identité devienne une fin en soi. On bascule dans l'identitaire. Donc c'est comment on arrive, au travers de la fraternité, à dialectiser, au fond, trois niveaux qui se dialectisent. Je dis pas qu'ils se hiérarchisent forcément, mais ils se dialectisent. Le singulier, le particulier et l'universel. Or, il n'y a pas de nous d'entrée de jeu universel. D'entrée de jeu au sens direct. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de commune humanité, on a parlé de commune humanité aussi. Mais une commune humanité, ça ne fait pas forcément une fraternité d'exercice. On sait qu'il y a une commune humanité, bien sûr. On sait bien qu'il y a une commune humanité. Mais avec ça, après ça, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Pour qu'elle se structure en fraternité, il faut bien qu'elle passe par des médiations qui sont celles de la particularité, évidemment. Il n'y a pas d'immédiateté de l'universel. Donc on voit bien que la fraternité, elle en passe par des moyens. Et ces moyens peuvent être aussi bien un nous religieux, ecclésial, ou d'autres traditions religieuses, qu'un nous moral ou un nous politique. Et c'est là, à mon avis, les enjeux, à mon avis, de toutes les différents enjeux, à mon avis, des questions qui ont été posées au cours de cet après-midi. S'il y a une commune humanité, cette commune humanité en passe aussi par des communautés singulières, particulières, et qui sont autant de fraternités. En fait, s'il y a une fraternité possible, une commune humanité, c'est parce qu'il y a des fraternités particulières qui sont appelées à se rencontrer les unes les autres, en quelque sorte. Elles ne sont pas forcément condamnées à une logique d'affrontement, mais au contraire d'altérité, d'écoute, exactement ce que, comme vous dites, effectivement, d'écoute, et qui est peut-être d'ailleurs la meilleure manière de conjurer la violence, c'est de savoir reconnaître que, de fait, il y a des modalités de la fraternité. Je ne sais pas ce que dirait le psychanalyste, mais...
Je ne vais pas conclure sur la conclusion.
J'entends bien, mais je tiens à ce que la conclusion soit ouverte, en tout cas. Voilà. Donc voilà les quelques éléments de réflexion que je tenais à, que je souhaitais au moins soulever, qui ont inspiré ce que vous m'avez, qui ont été inspirés par ce que vous avez, ce que nous avons pu dire tout au long de cet après-midi de près de 3 heures. Voilà. Puisqu'il est 5h15, oui, c'est raisonnable.